You know, sometimes we're not prepared for adversity. When it happens, sometimes we're caught short. We don't know exactly how to handle it when it comes up. Sometimes we don't know just what to do when adversity takes over. And I have advice for all of us. I got it from our pianist, Joe Zawinul, who wrote this tune. And it sounds like what you're supposed to say when you have that kind of problem. It's called Mercy, Mercy, Mercy.
Eh bien, bonsoir, est-ce que vous m'entendez tous? Allô, allô,
oui, vous très bien.
Très bien,
bon bonsoir. Stéphane, bonjour.
Bonsoir, merci de couper vos micros. On attend quelques minutes le co-hôte. Ah, ben le voici, qui vient d'arriver. Je vais le monter en hôte, car sans lui, je suis perdu. Démocratie, tu m'entends? Allô? Bonsoir, Débulocratie, tu m'entends?
Oui, parfaitement, Stéphane. Bonsoir, Stéphane, bonsoir à tous.
Bien, bah, écoute, bienvenue à tous pour ce X6, Démocratie Directe avec des S, en ce jeudi 31-10, 21h. Je vais commencer, Débulocratie, par te laisser la parole, car je crois que tu as... Petit message à nous faire passer et puis je présenterai ensuite notre invité, les quelques règles habituelles. Nous pourrons commencer notre débat tranquillement. La parole est à toi, Débulocratie.
Oui, c'est un petit message et suite à des remarques qui nous ont été formulées, que l'on entend hein, bien entendu, mais qu'on comprend avec les mesures qui s'imposent à l'organisation de ce space. Donc bon. Il n'y a pas énormément de monde, mais ça pourra servir peut-être de rappel pour ceux qui écouteront l'enregistrement avant le space de la semaine prochaine et les prochains spaces, à savoir qu'on demande par avance de faire preuve de tolérance et de bienveillance à l'égard de l'animation que l'on peut réaliser, Stéphane et moi, sur le space. Pourquoi ? Parce que, comme le dit l'adage, la critique est aisée, mais l'art est difficile. Et en fait, si effectivement ce space a pour but de promouvoir l'avènement d'une véritable démocratie en France, nous ne sommes pas finalement dans un space qui lui-même est une expression démocratique. Pourquoi ? Parce que nous sommes deux à organiser ce space et que, comme vous l'avez sans doute remarqué, aucun de vous n'a voté sur la façon dont ces spaces se sont organisés. Et donc, on ne prétend pas avoir un fonctionnement démocratique sur ce space. Mais donc, si ce space ne se revendique pas comme étant démocratique, il faut bien que des règles l'organisent, car nous voulons éviter l'anomie, c'est-à-dire l'absence d'organisation ou de loi, et la disparition des valeurs communes à ce groupe. Donc, pour ce qui est des valeurs communes, Stéphane va vous le repréciser juste après, hein, ça a toujours été fait sur l'ensemble des spaces précédents. Donc il va vous repréciser quelles sont ces valeurs communes dans ce space dans quelques secondes. Mais pour ce qui est de l'organisation, on a défini quelque chose de très simple maintenant, à savoir que nous avons utilisé la petite clochette que vous pourrez entendre si jamais l'intervention est considérée comme étant trop longue ou si nous considérons que l'intervenant contrevient justement aux valeurs du groupe ou est hors sujet, et ça nous le préciserons bien entendu. Donc ce qu'il faut bien en comprendre, c'est que si notre façon vous semble erronée dans la façon de faire, nous ne le contestons pas. On peut forcément comprendre que vous ayez une vision de l'animation d'un space qui puisse être différente de celle que nous pratiquons. Nous vous demandons malgré tout de faire preuve de tolérance et d'acceptation, parce que c'est notre façon de faire, et que même si elle peut apporter quelques désagréments à certains, eh bien, c'est comme ça que nous l'entendons. Et trois, eh bien, nous vous conseillons de créer vos propres spaces, où vous pourrez du coup faire mieux que ce que nous faisons selon vous, et surtout œuvrer à l'émergence de la vraie démocratie. Parce que, en tout cas, je sais que pour Stéphane, c'est le cas, pour moi aussi, et peut-être pour d'autres ici aussi. Plus nous serons nombreux à organiser sur le sujet de la démocratie, la vraie démocratie, plus la cause sera défendue, et c'est forcément positif. Je t'en prie, Stéphane, justement, reprécise toutes nos valeurs qu'on essaie de défendre ici.
Bien, merci Bibliocratie. Donc, pour ce X6, avant de présenter Rôle Maniverton, je voulais rappeler quelques règles et déroulées qui sont, comme tu viens de l'exprimer, pour nous très importantes. Donc, la sexualité, la santé, la religion, le vote sont appelés à rester dans la sphère privée pour des raisons évidentes, afin d'éviter des polémiques stériles, des attaques personnelles et des procès d'intention qui ne doivent pas avoir lieu dans cette agora. Les parler fort, les insultes, les propos ressensibles également, les trolls sont immédiatement sanctionnés par une exclusion. Néanmoins, aucune censure d'expression ne sera pratiquée dans le respect de la législation en cours. L'opposition bienveillante, la critique constructive et respectueuse, la divergence d'opinion sont vivement encouragées. En clair, le savoir-être et le savoir-vivre doivent être au service du savoir-faire. Nous vous rappelons que la citoyenneté est un état transversal de notre humanité que nous devons développer avec nos petits moyens. La durée maximum de ce space, plus ou moins 3 heures. Notre invité restera, lui, de 21h à 22h30 pour des raisons personnelles, puis nous continuerons sans lui au besoin. Nous préconisons à l'invité de poster dans les épingles les ressources qu'il désire et à laisser dans la bulle aux auditeurs et intervenants. Vous êtes donc appelés, si vous avez des partages à nous faire, à les faire dans la bulle. Munissez-vous, si vous voulez, d'un bloc-notes physique ou numérique pour préparer vos questions en plus de vos éventuelles. S'il vous plaît, éteignez pour le confort auditif de tous vos micros lorsque vous ne parlez pas. Et on essaie de ne pas couper la parole aux intervenants comme aux auditeurs questionnants afin de favoriser un confort d'écoute et une compréhension optimale. Voilà, c'est dit, c'est récurrent, je suis désolé, mais c'est un peu obligé. On va pouvoir accueillir maintenant Rolmani Berton, qui était d'ailleurs du premier space, c'est le premier intervenant dans le space X1 de Démocratie Directe le 18 septembre dernier. Rolmani Berton, on va le présenter rapidement, est un politologue français de double nationalité, française et péruvienne. Il est doctorat en 2002 à la Sorbonne, post-doctorat à l'Université de Montréal. Il rejoint Sciences Po Bordeaux en 2005. Comme maître de conférence, agrégé des universités en 2009, il a été professeur à Sciences Po au Grenoble, où il fut le premier directeur du pôle sciences sociales universitaires à l'époque. Il enseigne aujourd'hui à l'ESPOL, je vous fais grâce de la traduction de l'acronyme, mon anglais est déplorable, département de sciences politiques et sociales de l'Université catholique de Lille. On peut considérer que par ses travaux et ses engagements sur la démocratie, il est l'un des principaux promoteurs de la démocratie directe et du principe de subsidiarité en France. Nous le recevons ce soir comme porte-parole de Solutions démocratiques, le premier parti en France à promouvoir la démocratie directe. Et nous sommes heureux, Raoul, de bien te recevoir ce soir. Et première question, comment vas-tu et comment se porte ce jeune bébé naissant de Solutions démocratiques?
Eh bien, bonjour, merci de l'accueil ici. Alors, ce premier bébé qui s'appelle, tu l'as rappelé, Solution démocratique, il a maintenant à peu près 2 mois. Il se porte bien, on a toujours des nouveaux. On a aussi des personnes qui rentrent, qui sont particulièrement actives et intelligentes, donc ça permet de créer tout de suite des choses. Et on a, par exemple, une nouvelle recrue, Jean-Pierre, qui est de grande qualité, qui nous a obtenu une rencontre à l'Assemblée nationale avec le RN. On n'avait jamais eu le RN encore, donc c'est une première. Voilà, la réponse vous convient?
Oui, la réponse, c'était juste pour prendre de ces nouvelles. Je tiens à préciser qu'aujourd'hui, il n'y aura pas à ta demande de présentation didactique et magistrale. Quelqu'un qui a un micro ouvert, c'est Raoul. Est-ce que tu peux l'éteindre au fur et à mesure? Parce qu'on entend ton son autour de toi. Oui, je disais donc qu'à ta demande, il n'y aura pas de présentation magistrale comme on le fait d'habitude de 5, 10 ou 15 minutes éventuellement et que tu as préféré répondre le plus rapidement possible aux questions. Néanmoins, peux-tu quand même très rapidement préciser l'angle avec lequel vous, Solutions démocratiques, vous envisagez d'obtenir des parrainages en ce qui concerne les maires en vue de la présidentielle et quel est votre angle d'attaque pour imposer une forme de démocratie au sein de nos institutions actuelles?
Ok, bien sûr, bien sûr. Je vais donc commencer par dire de quoi il s'agit, c'est quoi l'objectif de ce parti qui, en réalité, c'est un mouvement qui est issu d'un mouvement qui est un collectif qui dure depuis 3-4 ans maintenant, dans lequel on a déjà eu une candidature à la candidature de la présidence de la République, ainsi que plusieurs candidats aux législatives, aux européennes, etc. Donc on a maintenant une certaine habitude, disons, dans les petites sphères, et le parti, c'est la création du parti, c'est un peu un des éléments pour monter un petit peu en professionnalisme, on va dire. Donc l'objectif est très simple. L'idée, c'est de confier la constitution aux citoyens. On ne va pas plus loin, hein. On ne s'imagine pas la meilleure constitution possible avec tous les détails. On veut juste donner à tous les citoyens le droit de changer ou non leur constitution. Vous savez qu'aujourd'hui, ce droit est dans les mains des élus. Alors pourquoi c'est si important ? Là aussi, c'est une thématique qui revient souvent, c'est parce que la constitution, c'est le sommet du droit. Donc qui contrôle la constitution est le souverain. Donc, c'est pour cette raison qu'on voudrait que les citoyens puissent contrôler directement, tout simplement parce que si vous voulez que les citoyens se mêlent aussi des lois ordinaires ou se mêlent de la possibilité de révoquer des représentants, toutes ces annexes-là, eh bien, peuvent être créées directement dans la Constitution par ceux qui la contrôlent. Donc, en fait, contrôler la Constitution signifie contrôler la manière dont la démocratie chez soi fonctionne et dont elle va fonctionner à l'avenir. Donc voilà, donner ce droit simplement. Alors, le droit est très simple, il consiste transférer les droits qui sont aujourd'hui détenus par nos députés aux citoyens. Donc le droit d'initiative, le fait de proposer des lois, et on propose de donner à chacun, en fait, et
Ah, je n'entends plus Rawls, c'est moi ou c'est lui qui a un
problème ? Alors, je pense que c'est lui parce que moi non plus, je n'entends pas. Ah. Je me suis demandé si c'était moi parce que j'ai des petits problèmes de connexion ce soir.
Ah, ok.
Alors, tu as eu une coupure, Raoul, dans 15-20 secondes, si tu peux reprendre un petit peu en arrière.
D'accord. N'hésitez pas à me le dire, hein, parce que, effectivement, j'ai un Internet un petit peu qui parfois devient instable. Donc, l'idée, je reviens en arrière. Donc, l'idée, c'est donner aux citoyens des droits supplémentaires, n'est-ce pas, des droits importants qui sont ceux qui sont détenus aujourd'hui par leurs représentants. Chaque représentant peut proposer une loi constitutionnelle et cette loi va être débattue dès lors qu'il est soutenu par un groupe parlementaire. Et ensuite, après le débat, il va y avoir un vote de l'ensemble du Parlement. Là, l'idée, c'est de faire la même chose, mais à l'échelle de tout le pays. Chaque citoyen peut proposer une loi. S'il a 700 000 soutiens, il déclenche un référendum et l'ensemble des citoyens se prononcera là-dessus. C'est quelque chose de très puissant, hein, qui existe déjà, c'est pas quelque chose de nouveau, même si l'idée c'est de le transformer un peu à la sauce française, et qui demande le changement d'un seul article de la Constitution. L'article 89 qui nous dit comment on change la Constitution. Donc c'est très facile et ce changement de l'article 89, comme on l'a fait, a déjà fait l'objet de 3 pétitions à l'Assemblée nationale, plus il a été soumis à la législature 2017-2022 par Jean Lassalle. Dans la législature suivante, elle a été soumise encore par Jean-François Coulomb. Et là maintenant, pour cette législature, qui va soumettre quel député et quel parti? Bon, on arrive à pouvoir sensibiliser à ça. Voilà, ça, c'est l'objectif de base. Encore une fois,
Excuse-moi de t'interrompre. Oui. Est-ce que tu pourrais préciser pour tout le monde ce que contient l'article 89 et rentrer dans le détail, puisque visiblement, oui, c'est la porte d'entrée principale de votre action démocratique.
Tout à fait. D'accord, je le fais.
Et ça, en tout le monde.
Pas de problème. Donc l'article, j'essaie de pas être trop long, c'est pour ça que je vous avais proposé des questions, parce que après tout, je ne sais pas quel est le niveau d'information des auditeurs, donc autant revenir dessus et me demander des précisions comme ici, il n'y a pas de problème. Donc l'article 89, est l'article qui dit comment on change la Constitution. Aujourd'hui, l'idée est très simple. Alors, je précise aussi une chose, toutes les décisions qu'on prend en politique, il faut contiennent deux institutions, une institution qui a le droit de proposer et une institution qui a le droit de disposer. En fait, quelqu'un propose, un autre dispose. Donc aujourd'hui, ceux qui peuvent proposer, c'est les parlementaires, le gouvernement, le président. C'est les seuls Français qui ont le droit de proposer un changement constitutionnel. Donc environ 1000 personnes. Et ceux qui disposent, alors là, l'article 89 est un peu ambigu parce que, en principe, dans l'alinéa 2, il dit que c'est le référendum, donc c'est la majorité des citoyens qui peuvent dire oui ou non. Sauf qu'il y a un troisième alinéa qu'on peut d'ailleurs abroger, qui dit que toutefois, lorsque l'initiative provient du président du gouvernement, le président peut décider de ne pas faire un référendum et plutôt de demander au Parlement réuni en congrès s'il accepte ou non sa proposition de loi. Donc, il faut les 3/5 pour cela. Ça, c'est aujourd'hui, c'est cette clause qui est très ennuyeuse parce que vous voyez, c'est un troisième alinéa introduit par un toutefois. Donc, c'est quelque chose qui est censé être un petit peu exceptionnel. Or, il se trouve que dans les 24 changements constitutionnels qu'a eu notre constitution depuis 1958, qui ont suivi cette procédure, eh ben, 23 ont suivi le toutefois. C'est-à-dire, on n'a pas voté. Et il y en a un seul où on a voté dessus, qui était le quinquennat. Hein. Donc, en fait, on a un problème là-dessus, c'est que notre constitution est déjà un peu avancé, c'est-à-dire que le référendum est conçu, donc il suffit de le garder et d'abroger l'alinéa 3 qui permet au Parlement de décider sans nous. Et il suffit aussi d'ajouter l'initiative citoyenne dans le premier alinéa, ce qui dit aujourd'hui que les parlementaires et le gouvernement et le président ont le droit d'initiative, on va ajouter les citoyens. Et tout cela nous conduit à devoir un petit peu préciser les choses pour savoir les conditions par lesquelles les citoyens peuvent déclencher un référendum. Donc, ça, c'est un alinéa supplémentaire. Donc, ces petits changements, c'est pas beaucoup, hein, c'est quelques mots, mais vous pouvez aller les voir sur le site donc, de Solutions démocratiques qui a notre projet de loi, disons, original, celui à partir duquel des variantes peuvent être faites, mais la base de la base, on va dire.
Merci Raoul pour cette initiative de présentation qui va permettre de lancer les échanges. Donc on va tout de suite passer la parole à France Constituante qui va poser une première question. Ensuite on aura Phil Comte qui lève également la main. Pour les autres qui sont en intervenant, n'hésitez pas à lever la main pour qu'on puisse vraiment définir les ordres. Sinon, je vais considérer que vous êtes en attente de prise de parole. Et donc du coup on aura ensuite Dominique, Pascal et Démocratie Directe. Donc du coup Démocratie Directe vient de lever la main, il repasse devant. Constituante, je t'en prie, c'est à toi.
Oui, bonjour à tous, bonjour Raoul, merci pour votre présentation. Alors, en fait, je n'ai pas une question à poser, deux questions qui sont relativement simples, hein. Je pense que vous devez pouvoir m'apporter une réponse rapide. La première concerne votre parti, hein, puisque tu me dis que le parti existe déjà, et donc la question, elle est toute bête, toute con, c'est combien êtes-vous ? Voilà, c'est pour avoir une petite idée de la force que vous représentez. Ça, c'est la première. Et la deuxième question, elle concerne une parole que tu as dit. Tu as dit que le système que tu proposes existe déjà. Et donc, j'aimerais savoir exactement où. Merci.
Merci, France Constituante. Je t'en prie, Raoul, à toi.
Eh ben, merci pour la question. Donc, la première réponse est, alors, sauf si, c'est pas moi qui tiens les comptes hein, dans le parti. Donc, et comme chaque semaine, ça change, ça fait 2 mois... qu'il existe, je vais vous donner un chiffre provisoire, mais là on est 300. Voilà. Je vous dirai dans 6 mois qu'est-ce que ça donne. Pour l'instant, on est encore en phase montante. On est 300, mais on a quand même un réseau de plusieurs milliers, ce qui nous permet d'ailleurs de déposer et de faire passer toujours nos pétitions à l'Assemblée nationale. Voilà, donc la question est savoir combien des gens vont s'inscrire. Deuxième question, où est-ce que ça existe? Bon, c'est très simple. Le modèle le plus proche de celui qu'on demande, c'est le modèle suisse. Et les Suisses peuvent initier un changement constitutionnel et le voter. Et c'est la fameuse initiative populaire. Mais le contrôle de la constitution existe aussi dans d'autres pays. Il existe en Uruguay. Il existe dans les îles Palaos. Ça, c'est les États. Et d'une certaine manière, mais on ne sait pas encore dans quelle mesure, parce qu'il y a des soucis juridiques à Taïwan. Voilà, ça, c'est les pays qui souverains qui disposent de ces droits.
Merci Raoul. Alors moi, je vais en profiter de mon droit de co-hôte pour approfondir un peu cette question. Bon, on connaît assez plus facilement en fait ce qui peut se passer en Suisse, mais sur les autres pays dont tu parles, quelle est, si tu le sais, l'utilité peut être faite de ce droit de révision constitutionnelle?
Bon, l'Uruguay.
Parce que avoir un droit, c'est bien, mais pouvoir l'utiliser.
Oui, oui, c'est bien utilisé, bien sûr. Après, vous m'entendez?
Oui, oui, très bien. Continuez. Oui,
très bien. Ok, parfait. Je me préoccupe. Donc, en Uruguay, en Suisse, c'est utilisé plus souvent. D'ailleurs, j'ai oublié le Liechtenstein, c'est utilisé assez souvent. Pour une raison simple, c'est que le seuil de signature est très bas. En Uruguay, là, c'est un peu différent. Il y a un seuil de signature très bas, d'un pour cent. Mais ensuite, il y a, disons, une phase de mi-référendum, mi-signature intermédiaire. C'est-à-dire que le gouvernement envoie un document à signer à l'ensemble des citoyens si c'est à 1%, si 1% est obtenu. Et à ce moment-là, on tient un référendum seulement si 25% des citoyens renvoient le formulaire signé. Donc, c'est en deux phases. Cette phase intermédiaire des 25% fait qu'il y a beaucoup moins de référendums, mais il y a aussi beaucoup moins de référendums ratés. Donc, ça dépend le modèle qu'on veut. C'est-à-dire que quand une initiative passe à référendum, il y a beaucoup plus de chances de réussir qu'en Suisse, où 2% de la population peuvent directement soumettre à référendum leur projet. Oui, ça a eu un impact assez important dans la vie de l'Uruguay. Déjà, pour une espèce de pacification, c'est un pays qui a vécu d'ailleurs un coup d'État militaire dans les années 70. Et le coup d'État militaire est terminé, disons, a duré quelques années, mais a terminé beaucoup plus vite que dans les autres pays, parce que les militaires, comme dans les autres pays, ont voulu faire passer leur constitution, mais pour la faire passer, il fallait suivre la procédure du pays, et qui était donc soumission obligatoire à référendum, et les citoyens ont dit non. Donc, les militaires, à ce moment-là, se sont affaiblis, et il y a une transition qui a duré 4 ans pour retrouver la démocratie. Et là-dessus, ça a été intéressant, parce que il y a eu quand même pas mal de votations sur changement constitutionnel. C'est un des rares pays en Amérique latine qui aujourd'hui, son eau est publique et cela a été décidé directement par les citoyens. Aussi, c'est un des pays dans lequel la réforme des retraites a été retoquée et une retraite, maintenant que je donne les détails, c'est plutôt plus jeune que celle qui était donnée et a été inscrite dans la Constitution, ce qui fait que les élus ne peuvent pas la changer sans vote citoyen. Et ça, ce sont que deux exemples, mais vous pouvez trouver la liste complète, je peux vous la fournir. D'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Démocratie » et dans lequel il y a un grand chercheur uruguayen qui a écrit un chapitre sur l'Uruguay, donc les détails de tous les référendums et de l'évolution de la loi en Uruguay. Je dois dire que l'Uruguay se porte très bien aussi hein, avec ça. C'est le pays en Amérique latine qui est le plus riche et aussi le plus égalitaire. Donc, évidemment, je ne dis pas que c'est à cause de ça, mais en tout cas, cette pratique ne produit pas de quelconque problème et tout le monde veut le garder. C'est quelque chose qu'eux considèrent un acquis. Les Uruguayens, à l'instar que les Suisses, un peu comme nous, on considère un acquis, je ne sais pas, les droits individuels ou le droit de vote. Voilà. Palaos,
si j'ai bien compris.
Oui. Comment?
Si j'ai bien compris, Raoul. Alors, déjà, il va falloir que tu redonnes le nom de toi, parce que tu as été coupé à ce moment-là. Donc,
ah ben, il s'appelle comme vous. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui exactement comme donc, vous. Il s'appelle Démocratie directe au pluriel.
Ça va permettre de simplifier aussi la recherche. Et ensuite, de toute façon, quand tu dis que les Uruguayens sont contents et veulent le conserver, pour pouvoir abandonner ce droit qu'ils ont acquis et qu'ils ont constitutionnalisé en quelque sorte, il faudrait que constitutionnellement, par le référendum, ils se désarment de cela.
Exactement.
Qu'ils souhaitent se l'enlever.
Exactement.
Ce qui est plutôt peu probable, normalement.
Ah ben, c'est jamais arrivé. Hein. Ceux qui l'ont obtenu sont jamais revenus en arrière. Sauf, justement, coup d'État, par la force.
Après, il y a différents coups d'État. Il peut y avoir des coups d'État militaires par la force. Il peut y avoir aussi des coups d'État politiques avec différentes manigances qui peuvent...
Oui, mais ça, il n'y a jamais eu.
Se considérer qu'on en a peut-être vécu quelques-uns.
Oui. Disons que dans l'histoire, alors quand je cite la Suisse, le Liechtenstein, les îles océaniques, l'Uruguay, et on pourrait citer, même si ce ne sont pas des États souverains, des États-Unis de l'Ouest, le Colorado, l'Oregon, la Californie, le Dakota du Nord, qui peuvent changer leur propre constitution, même si c'est une constitution d'État et pas une constitution nationale. Eh bien, dans tous ces exemples, on n'a jamais eu, non seulement un coup d'État politique, parce qu'il n'y arrive pas, mais même des retours en arrière, c'est-à-dire les seuils de signature sont jamais augmentés, sont plutôt diminués. Les droits des politiques pour freiner un référendum ou retarder, là aussi, sont réduits. D'ailleurs, la dernière votation des Californiens, c'était pour augmenter la transparence dans le Parlement, donc les politiciens sont beaucoup plus contrôlés. Et donc, il n'y a pas de retour en arrière dans ce type. Le seul que je vous ai dit qui est possible, c'est vraiment la prise du pouvoir de l'armée sans aucune procédure juridique. Ça, on n'est jamais à l'abri.
C'est le plus facile, effectivement. Merci, Raoul. On va écouter Philippe Comte.
Oui, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Alors, les dernières phrases m'ont fait penser à cette réflexion de dire, savez-vous pourquoi il n'y a pas de coup d'État aux États-Unis? C'est parce qu'il n'y a pas d'ambassade américaine pour la préparer. Voilà. Par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur la Suisse, vous avez parlé de la révision constitutionnelle à la seule initiative, ou du moins au seul choix des citoyens. Or, je crois que ce n'est pas tout à fait exact. Pour changer la constitution suisse, il faut la double majorité. Il faut la majorité des citoyens, bien entendu, mais il faut aussi l'Assemblée des cantons. Et de plus, il faut que la proposition de révision constitutionnelle ne soit pas contraire au droit international qu'aurait ratifié la Suisse. Et ma question va être la suivante, c'est que, imaginons que nous ayons un changement constitutionnel, ou même d'ailleurs législatif, décidé par des citoyens dans un RIC. Y aurait-il, avant la mise en question devant le peuple, un avis du Conseil d'État qui, tout simplement, vérifierait si le changement législatif est d'autant plus constitutionnel, eh bien, serait en contradiction avec des tas de lois existantes, et que le fait de rajouter une loi devrait automatiquement abroger ou modifier XXXXXXXXXX loi, de manière à ce que le peuple qui puisse ensuite se décider sache que cette modification-là entraîne telle et telle et telle autre modification. C'est normalement le travail du Conseil d'État quand quand le législateur au Parlement décide de faire une modification législative, le Conseil d'État est consulté pour qu'il n'y ait pas, le moins possible en tout cas, d'opposition entre plusieurs lois qui resteraient existantes. Et à ce moment, il y aurait une insécurité juridique entre telle loi qui resterait, telle nouvelle loi qui serait là, et finalement le juge aurait un pouvoir exorbitant d'arbitrer entre deux lois qui se contrediraient. Voilà, donc je voulais savoir quid du Conseil d'État dans vos projets de RIC, et aussi savoir si la modification constitutionnelle par RIC demande une majorité simple ou une majorité qualifiée. Je pense que ce n'est pas la même chose de modifier une loi qui demande la majorité simple, et de changer la Constitution, qui, à mon avis, demande une majorité qualifiée les deux tiers. Merci beaucoup.
Merci Philippe. Raoul, tu peux donc répondre à Philippe.
Oui, merci Philippe. Alors, je vais répondre un peu point par point dans l'ordre. Donc, le premier point, ça partait de la Suisse. Donc, il est tout à fait exact qu'en Suisse, il y a la double majorité qui ne porte pas sur l'initiative, hein, il porte sur le référendum. La double majorité des citoyens et des cantons. Alors, attention, par contre, il faut savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans un référendum, les citoyens doivent être majoritaires en faveur de oui, donc majorité simple, 50 plus 1%. Mais aussi, ils doivent être majoritaires dans un nombre majoritaire de cantons. Donc, il y a 26 cantons. Ça veut dire qu'au moins dans 14, les citoyens doivent être majoritaires lors du référendum. Donc oui, il y a une double majorité, mais c'est toujours des citoyens. À aucun moment, il y a un représentant qui a le droit de dire non. Okay, c'est ça que ça veut dire, la majorité des cantons. Donc, pourquoi il y a eu cette double majorité? Ce qui pourrait exister en France, hein, la double majorité, c'est un principe qui peut être intéressant, c'est qu'il s'est fait parce que la Suisse, moins que la France d'ailleurs, mais la France aussi a cette large problématique, la Suisse l'a assez résolue, d'avoir des zones rurales très peuplées, des zones urbaines très peuplées, des zones rurales où il n'y a pas beaucoup de monde. Et donc, parfois, le risque, c'est que les urbains dominent les ruraux, n'est-ce pas? Donc...
Ah, on t'entend plus, Raoul. Et il a même sauté. Problème de connexion. Donc, ça aussi, c'est une différence entre la ruralité et les zones urbaines. C'est l'accès au réseau de communication, Internet et tout le tintouin. Je suis bien placé pour le savoir, puisque, petite parenthèse personnelle, le temps que Raoul revienne, ça fait plus de 6 mois que je fonctionne avec une clé 3G parce que la fibre qui est juste devant chez moi a encore 2,50 m à faire pour pouvoir revenir. Et il faut attendre jusqu'en février, donc ça fera quasiment un an. Donc Raoul, j'espère que ta connexion est bien meilleure que la mienne et que tu vas pouvoir terminer ton propos. Alors, si tu peux terminer, ouais, là on t'entend très bien.
Donc voilà, j'ai vu que vous avez entendu jusqu'au bout.
La différence
presque.
Avec la ruralité.
Comment ?
La différence entre zone rurale et zone urbaine qui implique justement le fait d'avoir ce double vote. En fait.
Voilà, c'est un simple vote, hein. C'est-à-dire les gens votent qu'une fois. C'est juste qu'on les compte de deux manières. Un citoyen vote, et puis après, on le compte au niveau national, mais aussi au niveau des cantons. C'est un peu, si on faisait pareil en France, on pourrait dire que un référendum est valide s'il y a la majorité de tous les Français, mais aussi dans la majorité des départements. Okay, il faut qu'une majorité des départements obtienne la majorité des voix en faveur du changement, et pas que Paris, Lyon, Bordeaux, en gros. Okay, parce que ça, c'est possible qu'il y ait la majorité des citoyens, mais dans une minorité de cantons, de départements, tout simplement parce que c'est les gens des villes qui sont beaucoup plus nombreux et qui votent tous en faveur, ou très majoritairement en faveur de quelque chose. Voilà, donc c'est une protection des zones rurales, mais ce n'est pas une limitation des droits des citoyens, puisqu'on est en train de discuter toujours sur le vote direct des gens. Deuxième élément, les limites d'un vote constitutionnel. Alors d'abord en Suisse et ensuite ce que ça pourrait être en France. Donc en Suisse, comme en France, la Constitution est la norme suprême, donc il n'y a pas de limite. Par contre, il y a des limites et ils ont été mentionnés, notamment sur les principes généraux du droit international, qui sont des principes très généraux, encore une fois, mais qui est une limite de ce type, c'est-à-dire que les Suisses ont décidé de l'introduire dans la Constitution, cette limite. Okay? C'est-à-dire, la Constitution dit qu'on ne peut pas changer la Constitution de façon contraire au principe du droit international. En réalité, c'est toujours possible, mais il y a une étape de plus désormais. C'est-à-dire que tout d'abord, il faut abroger cet article, c'est-à-dire qu'une révision on ne doit pas contredire le droit international. Et ensuite, il faut introduire une mesure qui le contredit. Il faut faire en deux temps. En France, on a la même problématique parce que l'article 89, si vous allez sur Internet et on peut le voir, dit qu'il y a deux conditions dans lesquelles on ne peut pas changer la Constitution. Une, lorsqu'il y a un danger sur le territoire, en gros quand il y a une guerre, et l'autre quand on est sur l'unité de la nation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas... attendez, je vous le donne plus précis que ça, je prends sous les yeux.
Alors en fait, les deux contrevenances, Raoul, c'est premièrement qu'effectivement, il ne peut pas y avoir en fait, d'atteinte à l'intégrité du territoire et ouais. que ça ne peut pas non plus réviser la forme républicaine du gouvernement.
C'est ça. Donc, vous voyez, ces deux contraintes-là, ça ne veut pas dire que c'est des contraintes éternelles. Ça veut dire que si on veut réviser la forme républicaine du gouvernement, il faut d'abord faire un changement constitutionnel qui abroge cet alinéa, l'enlever, l'alinéa, et ensuite faire le changement. Donc, en réalité, ça porte quand même, quand ça porte au niveau constitutionnel, ça peut tout faire, sauf que parfois on se met des limites nous-mêmes qui fait qu'on peut quand même le faire, mais ça devient plus difficile parce qu'il faut changer deux choses au lieu qu'une. Voilà. Voilà le sens de la clause sur le droit international.
En fait, la question de Philippe avait un grand intérêt, c'est de se dire que effectivement, si on donne le droit aux citoyens de se définir d'un point de vue constitutionnel, ben, il est quand même nécessaire d'avoir un encadrement par le Conseil d'État.
J'y arrive. Mais ça, c'était la suite.
Mais qui s'assure que. D'accord, excuse-moi d'avoir coupé, ouais. Alors, je t'en prie.
Ok, donc ça, c'est les limites d'une loi. Maintenant. Comment se passe un changement constitutionnel? Tout d'abord, la question, le Conseil d'État n'a pas cette fonction, c'est le Conseil constitutionnel qui a cette. Le Conseil constitutionnel, généralement, quand on fait une loi ordinaire, vérifie que cette loi est conforme à la Constitution. Tout simplement parce qu'une loi ne peut pas contredire la Constitution, puisque la Constitution est au-dessus de cette loi. Il n'y a pas besoin de savoir si une loi contredit une autre loi ordinaire. Pourquoi ? Parce que la règle, c'est que la plus récente entre en vigueur. Donc, le juge est tenu d'appliquer la plus récente. Il ne peut pas choisir entre plusieurs lois qui se contredisent. Donc, le Conseil constitutionnel dit si une loi est contraire ou non à la Constitution. Par contre, lorsqu'on fait une initiative constitutionnelle, l'initiative constitutionnelle ne peut pas être encadrée et ne l'est jamais par le Conseil constitutionnel ni le Conseil d'État. Pourquoi ? Parce que la Constitution étant souveraine, on ne peut pas dire qu'une loi constitutionnelle contredit quoi que ce soit, puisque par définition, s'il le contredit, c'est qu'il l'abroge automatiquement, puisqu'il y est supérieur. Donc, il n'y a pas de contrôle, ni aujourd'hui, ni avec le RIC, sur sur le contenu de la loi constitutionnelle qu'on fait passer. Aucun. Parfois, il n'y a même pas de conseil constitutionnel, pour vous dire. En Suisse, il n'y en a pas. Et il y a un slogan que des citoyens suisses qui disent « Le conseil constitutionnel, c'est nous ». C'est-à-dire, du moment qu'on fait une loi constitutionnelle, eh ben, on décide si une loi ordinaire contredit ou non la Constitution. Voilà. J'ai fini.
Merci Raoul pour ta réponse. Non mais je t'en prie. On va donc avoir Démocratie Directe sans les S qui va te poser une question et pour préciser les ordres. Ensuite, on aura Pascal qui n'a pas levé la main mais qui a peut-être une question. Et ensuite, on avait France Constituante qui voulait te reposer une question. Vas-y Démocratie, t'écoute.
Bonsoir à tous. Bonsoir Raoul. D'abord, je vous invite tous ceux qui sont sur.
Alors, est-ce que c'est moi qui ai un problème parce que moi je l'entends pas.
Tu m'entends pas ?
Moi j'entends.
Attends. Vous m'entendez, c'est bon ?
Mais vous entendez Démocratie Directe ?
Oui, on entend.
Alors, c'est moi, je m'en vais, je reviens.
Ok, pas de souci. Donc, je vous invite à tous ceux qui sont sur le space à aller sur le site de l'Assemblée nationale, voir les deux pétitions qui ont été déposées par Solutions démocratiques et à voter. Il y en a deux différentes. Il y a l'historique, là, je crois que c'est la quatrième fois qu'elle est proposée, sur le référendum d'initiative citoyenne pour modifier la Constitution, donc proposition de loi historique, et il y a la deuxième qui est le référendum obligatoire. Donc c'est juste ce que disait Raoul tout à l'heure, de supprimer l'alinéa qui laisse le président décider que ce soit le Parlement qui décide de modifier la Constitution. Donc la proposition qui a été faite par ce parti est qu'on supprime cet alinéa et que désormais, dès qu'on doit réformer ou réviser ou abroger une règle de Constitution, ça passe obligatoirement par référendum des citoyens et que ça ne puisse plus passer par le Parlement en supprimant tout simplement cet alinéa qui dit toutefois, ce qui devait dire normalement qui est rare, mais finalement qui est devenu la règle habituelle depuis 1958. Voilà, ça c'est ceci étant dit. Voilà. Et puis ça donne, même si on sait qu'il y a des fois, ça peut de chance d'aboutir, ces deux demandes à l'Assemblée nationale de révision de la Constitution. En tout cas, ça a l'avantage de donner de la visibilité aux citoyens et au peuple de cette idée de démocratie, que le citoyen puisse intervenir directement sur sa constitution et sur les règles qui sont au-dessus de tout. Voilà, c'est au moins cet avantage-là de donner de la visibilité, et c'est aussi une des portes d'entrée. Voilà. Après, Raoul le sait, je suis assez critique sur cette porte d'entrée, puisque moi je suis, la solution démocratique est sur une solution de réforme progressive de la constitution, en fait, pour progressivement et éventuellement arriver à la démocratie directe, ou en tout cas que les citoyens décident au fur et à mesure du changement de loi, enfin de règles de constitution. Voilà, moi je suis plus pour un changement radical. Je pense qu'on ne peut pas passer d'un système où les représentants du pouvoir qui ne vont pas lâcher à un système où c'est le peuple qui finalement aura le pouvoir. Mais enfin ça, c'est mon avis personnel, mais il ne faut pas laisser... Enfin, il faut laisser cette initiative pour moi, parce que c'est toujours une porte d'entrée, et si jamais on peut y rentrer, mettre le pied dans la porte et rentrer, ben on ira. C'est toujours bienvenu. Voilà. D'où ma question, du coup, à Raoul, et la question gratte-poil, je me fais un peu l'avocat du diable, mais ça va te permettre de répondre de manière argumentée. Donc, Solution démocratique propose d'instaurer un outil de démocratie dans une constitution antidémocratique à des députés et sénateurs qui sont contre la démocratie, mais... Donc du coup, ma question, n'est-ce pas perdu d'avance? Et sinon, comment le Parti Solution démocratique compte-t-il faire pour s'affranchir de toutes ces contradictions que je viens de citer? Voilà, c'est à toi, Raoul.
Alors, merci, démocratie directe. Je ne connais pas ton prénom, mais peut-être c'est ton... Démocratie directe, c'est presque ta marque de fabrique. On a déjà discuté... un peu sur Twitter, donc merci de nous demander les questions, mais aussi d'avoir promu les pétitions, que peut-être je me permets de revenir un peu là-dessus pour préciser un peu les choses. Donc, sur ces deux pétitions qui sont déposées à l'Assemblée nationale et que je vous recommande vraiment de signer, une, c'est des solutions démocratiques et l'autre, c'est d'Espoir RIC. Celle d'Espoir RIC, c'est sur le RIC constituant et ce n'est pas la version historique, c'est une version nouvelle. Parce qu'il faut savoir que l'année dernière, nous avions déposé d'abord l'historique. Les députés ont dû la discuter, parce qu'ils sont obligés, quand on atteint un certain nombre de signatures. Et non seulement ils sont obligés, mais ils le font filmer. Ce qui fait que, par exemple, si vous allez sur le site, sur le YouTube de Espoir RIC, vous pourrez trouver les discussions des députés sur notre... proposition de loi. Après, ils l'ont classé, mais en tout cas, on sait qui c'est. On sait chaque député qu'est-ce qu'il dit. Donc, c'est un point important aussi pour savoir comment leur mettre la pression. Nous, du coup, on a déposé une deuxième pétition qu'on a évité les signatures, qui est une pétition dans laquelle on prenait en compte leurs objections et on proposait une variante qui réponde à leurs objections. Et donc, ils ont rediscuté et puis on a fait une troisième fois pareil. Ce qui est intéressant, c'est que ces pétitions ont porté l'attention quand même des députés là-dessus. La troisième, vous verrez, les trois sont filmés, donc vous pouvez voir directement les trois. C'est des discussions d'une vingtaine de minutes. Et vous pouvez aussi constater que le nombre de députés qui soutiennent notre pétition augmente, en fait. Tout simplement parce que nous avons marre d'être, de façon explicite et devant tout le monde, des gens anti-démocratie. Alors, il y en a qui s'en foutent, hein, mais ça varie. La deuxième pétition, donc aujourd'hui, Espoir RIC, donc, qui avait posé ces pétitions, et qui est en fait le collectif d'où est sorti Solution démocratique, hein, on a déposé une autre, toujours de RIC, et qui est encore autre chose, qui est un fonctionnement différent, mais qui est toujours bien de la soutenir, parce que quelle que soit la formulation, l'idée est vraiment de dire, en fait, la formulation ne nous intéresse pas trop, ce qui nous intéresse, c'est que les citoyens contrôlent la Constitution. Parce que même si les règles du jeu sont mal écrites, ils peuvent être réécrites justement par les citoyens du moment qu'on a la main dessus. Donc, ça, c'est important, peu importe si vous êtes d'accord ou non. La deuxième pétition, qui est, elle, est issue de Solutions démocratiques, c'est une pétition, en revanche, qui a été encore plus minimaliste, puisqu'elle porte uniquement sur les référendums obligatoires et non sur les deux, comme notre proposition historique, à savoir rendre le référendum obligatoire pour tout changement constitutionnel, plus donner aux citoyens l'initiative. Là, on a renoncé à l'initiative, on a demandé seulement de rendre le référendum obligatoire, parce que pour une raison simple, c'est que c'est une raison d'opportunité. En fait, le référendum obligatoire est présent aux partis principaux de la gauche et de la droite, Rennes. Et en plus, il y en a certains républicains qui sont pour. Donc, ils l'ont dit. Maintenant, ils n'en parlent plus, mais ils l'ont dit. Et ils l'ont dans leur programme. Donc, demander le référendum obligatoire permet de les mettre un peu plus dos au mur, puisqu'ils ont fait cette promesse. Après, ils peuvent toujours dire non, mais ils le diront publiquement. D'où la deuxième la question en fait, centrale de démocratie directe, qui est comment on compte faire passer ça avec des députés. En fait, les députés, c'est des gens qui ont plusieurs propriétés. D'une part, c'est des gens un peu comme vous et moi, hein, c'est pour un certain nombre qui se retrouvent un peu par le hasard des choses à être élus et qui n'ont pas vraiment d'idée sur qu'est-ce qui devrait être. Donc, beaucoup de députés qu'on a rencontrés, enfin beaucoup, un certain nombre, n'étaient pas convaincus parce qu'ils ne connaissaient rien. Et puis après, on a fait un cours presque à l'Assemblée nationale et il y en a certains qui ont changé d'avis. Donc, maintenant, ils nous soutiennent. Donc, il y a ça aussi. Il ne faut pas penser que tous les députés... C'est vrai que les députés, beaucoup ont un intérêt à rester, mais pas tous les députés sont aussi intéressés à avoir du pouvoir. Et surtout, beaucoup sont intéressés à avoir plus de pouvoir, mais certains d'entre eux auraient plus de pouvoir avec le RIC constituant. Parce qu'aujourd'hui, quand on est un député à l'opposition en France, on a zéro pouvoir. Et alors qu'avec le RIC constituant, on pourrait initier des pétitions. Et les partis politiques ont une capacité importante de lancer des pétitions. Donc, ça, pour tous les députés d'opposition, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, ce n'est pas nécessairement contre leur intérêt, du moins provisoire. Dès qu'ils pensent qu'un jour ils vont gouverner, ils deviennent contre. Ça, c'est vrai. Hein. Mais voilà, on a quand même des partis. Aujourd'hui, on a un gouvernement minoritaire, donc beaucoup de partis qui sont à l'opposition, qui ont du mal à aller au gouvernement, ça leur parle. Le deuxième élément, c'est que les députés, c'est des gens, justement, leur parti intéressé à leur fauteuil de député, qui est une partie importante, hein, et aussi prête à faire des concessions au cas où le siège saute. Comme on dit, nous, ce qu'on fait, ce n'est pas seulement des pétitions, nous, on fait des interviews des députés, on dit ce qu'ils disent, on se présente à des élections. Donc, en fait, on met la pression, c'est ça qu'on fait. C'est-à-dire qu'un député se retrouve, quand il dit des choses, à avoir des relais dans son circonscription sur ce qu'il a dit, et notamment ce qu'il a dit d'antidémocratique. Donc, parfois, les députés ont peur de ça. Ils tiennent à leur électorat. Donc, ils sont prêts à faire des concessions pour garder leur place de député, précisément, et pour ne pas la perdre. Donc, voilà, c'est ça les deux leviers qui ne sont pas... C'est-à-dire que, vous savez, ces genres de mouvements politiques, ce n'est pas qu'on gagne ou on perd, il y a plein de phases intermédiaires. Donc oui, on n'a pas gagné, on est loin d'avoir gagné, mais on a gagné le fait d'avoir des partis qui ont déposé les projets de loi, qui se sont engagés à les suivre, des maires qui se sont engagés à parrainer pour un de nos candidats, ou alors de voter pour au sénatorial pour un candidat de la démocratie. Donc, en fait, peu à peu, on voit que ça avance. Et au contraire, toutes les fois que quelqu'un chez nous a une initiative et qu'il est sous parti collectif, cette initiative donne quelque chose. Et c'est avec pierre après pierre qu'on fait un édifice. Voilà, ça, c'est un peu la vision qu'on a. Naturellement, qui ne s'oppose pas à tout changer. Hein. Juste, elle propose une alternative pour les gens qui pensent
avancer. Merci Raoul. On va faire circuler la parole, parce qu'il y en a qui attendent depuis un petit moment. On a Pascal qui a levé la main, qui voulait te poser une question. Puis après, on aura de nouveau France Constina. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à monter pour les autres. Pascal, bonsoir. Pascal, tu nous entends ? Donc, si Pascal ne prend pas la parole, on va la redonner à France Constituante.
Bonsoir à tous. J'ai entendu deux choses très justes. Oui, vous m'entendez ?
Oui, mais vas-y, Pascal, vas-y. On t'écoute. Décidément, ce soir, on est embêté sur le réseau. Est-ce que tu nous entends, Pascal ? C'est bon ?
Est-ce que vous m'entendez ?
On t'entend.
Oui, on t'entend très bien, Pascal. Interviens.
Merci. Merci. Oui, je vous entends. Donc, je disais que j'ai entendu deux choses très justes. Une de Raoul. Ah, j'ai un petit décalage, mais bon, c'est pas grave. Une de Raoul qui nous a expliqué, appuyé par des bureaucraties, qui nous a expliqué qu'il est possible de tout modifier dans la Constitution, y compris la forme républicaine du gouvernement, à partir du moment où on procéderait en deux temps. Et effectivement, théoriquement, c'est possible. Et puis, Philippe Comte, c'est dommage qu'il soit parti parce qu'il a dit une chose très juste aussi au sujet d'une des missions du Conseil d'État. Et je voulais vous dire que le Conseil d'État n'est pas la seule institution qui se mêle de nos affaires. Il y a aussi une institution européenne qui est très méconnue et qui conseille les gouvernements de l'Union européenne, mais aussi du monde entier, et qui s'appelle la Commission de Venise. Et son rôle à la Commission de Venise, c'est de conseiller les gouvernements de manière à ce que les standards démocratiques européens, hein, c'est-à-dire ceux de la souveraineté nationale, soient respectés. Quand il y a un Parlement qui envisage, par exemple, il y a eu en Ukraine en 2014, il y a eu des députés qui ont eu envie donc, d'instaurer un référendum, comment on l'appelle, pour virer un élu, un référendum, si quelqu'un peut me donner le
Révocatoire.
Révocatoire, merci. Donc les Ukrainiens, en 2014, le Parlement voulait donc instaurer le référendum révocatoire, et il s'est adressé à la Commission de Venise, et la Commission de Venise lui a répondu de ne surtout pas le faire, ne surtout pas faire ça, parce que ça casserait donc les standards démocratiques occidentaux et qu'ensuite ça donnerait l'idée aux autres parlements des autres pays. Bah, après tout, si eux le peuvent, pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas avoir ce droit également ? Et à la fin du marché, donc, le projet ukrainien est tombé à l'eau. Et sinon, je voulais faire une observation à Raoul et puis lui poser une question. J'ai noté que c'est la cinquième fois que vous pétitionnez donc pour demander à l'Assemblée nationale de nous accorder quatrième. Il y a eu deux pétitions là qui ont été lancées coup sur coup hier ou avant-hier, une par Yvan Bachaud et la deuxième par je me rappelle plus son nom,
Albin qui fait
partie de Solutions démocratiques.
Oui, c'est le trésorier même.
Ouais, le trésorier. Et donc, en fait, je voulais vous demander comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à l'article 4 de la Constitution qui fait obligation hein, aux partis de respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Alors, en pétitionnant, certes, vous respectez ces principes puisque vous demandez en fait aux représentants de bien vouloir nous accorder ce droit, mais si vous deviez prendre de l'ampleur et arriver... ce que je vous souhaite, hein, et arriver donc à avoir une représentation donc dans les assemblées. Est-ce que vous pensez que vous serez en accord avec cet article qui fait obligation au principe de respecter la souveraineté nationale, l'article 4? Et une deuxième question, est-ce que vous pensez, dans votre idée de réviser donc l'article 89 pour permettre donc aux citoyens de trancher par référendum toute révision constitutionnelle, est-ce que vous pensez que c'est en accord avec le préambule de notre Constitution qui dit que le peuple adopte, épouse, adopte les principes de la souveraineté nationale? Donc, est-ce que vous pensez que le législateur va pouvoir aller à l'encontre de ce qu'a adopté le peuple? Le peuple a dit, nous, c'est la souveraineté nationale. Est-ce que vous pensez qu'il va dire, bah, finalement, non, ça sera la souveraineté populaire? Et est-ce que vous pensez qu'il le dira d'une manière majoritaire, c'est-à-dire une majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat, et avec en plus le président de la République qui doit avaliser tout ça, sinon, s'il n'y a pas ces trois choses, sans compter le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État et le grain de sel que mettra la Commission de Venise, est-ce que vous pensez qu'il y aura un alignement des planètes qui permettra un jour d'avoir cette révision de l'article 89? Voilà, merci.
Merci Pascal. Raoul?
Oui, donc, je passe sur la... Peut-être juste un mot rapide sur le préambule de la question, donc merci de l'évoquer, et notamment sur le cas de l'Ukraine. Juste, c'est correct, hein, c'est-à-dire que effectivement, l'Union européenne est emmerdée avec toutes les règles de démocratie directe, parce que c'est beaucoup plus facile de convaincre des dirigeants que de convaincre l'ensemble des citoyens. Pour autant, l'Ukraine est loin d'être pionnier là-dessus, puisqu'il y a des pays de l'Union européenne qui ont le référendum révocatoire, par exemple la Slovaquie. Il y a des pays qui ont le référendum obligatoire, par exemple l'Irlande ou le Danemark. Donc, ce n'est pas quelque chose non plus de nouveau dans l'Union européenne. Mais ceux qui l'ont déjà, c'est sûr qu'ils bénéficient de ça. D'ailleurs, ça se voit notamment dans la capacité à avoir des positionnements exceptionnels, des options de retrait dans l'Union européenne, puisque les citoyens, quand ils votent non, c'est non. Et comme ils ont cet avantage, ils veulent éviter que d'autres les imitent. Ça reste une question donc, nationale, c'est sûr qu'il y a ça. Après, de fait, de mieux les pays, nous, on montre aussi dans les faits que les pays qui utilisent le référendum obligatoire s'en sortent mieux que les autres, notamment depuis qu'il y a l'Union européenne, précisément parce qu'ils arrivent à avoir des options de retrait et des avantages. Donc là aussi, il faut voir, il y a des voies de tous les côtés, donc il faut voir comment ils se positionnent les différents politiciens. Maintenant, l'autre question, c'est une question qui renvoie, alors qui a été beaucoup soulevée par des personnes qui sont ici présentes, si bien que j'ai fait un live que vous trouvez là aussi sur la page YouTube d'Espoir RIC pour répondre à cette question de souveraineté nationale, souveraineté populaire. Donc, l'avantage du live, c'est que je prends 20 minutes pour l'expliquer et puis il y a des questions-réponses. Donc, c'est un peu plus précis de ce que je vais dire là. Donc, si jamais je me réfère à ça. Donc, là, je vais répondre un peu court et crûment. Nous, il n'y a aucune contradiction entre ce qu'on demande, nous, à savoir que les citoyens contrôlent leur constitution, qui est l'initiative et le dernier mot des lois constitutionnelles, mais pourquoi pas des lois en général. Il n'y a aucune contradiction entre ça et le fait d'avoir une souveraineté nationale. Donc là-dessus, je pense que le fait de croire qu'il puisse y avoir une contradiction, c'est lié au fait qu'on a mal compris, en fait, le débat qu'il y a eu autour de souveraineté nationale et populaire. C'est-à-dire que, effectivement, les personnes qui défendaient le système représentatif avec des représentants élus, c'est des personnes qui ont défendu beaucoup la souveraineté nationale pour une raison très simple, c'est que la souveraineté populaire exclut de transférer l'exercice de la souveraineté aux représentants. C'est pas possible si on a la souveraineté populaire. Alors que la souveraineté nationale le permet. Mais le fait qu'il le permet, ça ne veut pas dire qu'il l'oblige. C'est-à-dire, avec la souveraineté nationale, on peut décider qui représente cette souveraineté nationale, et dans beaucoup de cas, c'est les citoyens. Par exemple, là encore, vu qu'on fait le parallèle avec la Suisse, en Suisse, il n'y a pas de souveraineté populaire. En Suisse, c'est les cantons qui sont souverains. Donc, les cantons, c'est des entités abstraites. Mais de fait, qui personnifie cette souveraineté cantonale, c'est les citoyens, par leur vote. Donc, c'est eux les représentants de la nation, si vous voulez. Donc, nous, on veut la même chose, on veut simplement que les citoyens soient les représentants de la nation, et tout ça, c'est absolument juridiquement, ça ne pose aucun problème. Donc, on a des obstacles politiques importants, mais pas des obstacles juridiques. Voilà.
Merci Raoul. Merci. Pour cette précision. Je vais apporter également une petite précision puisque Pascal a très justement parlé de la commission de Venise. Alors, c'est une commission qui est très particulière, déjà parce qu'elle est c'est consultatif, hein, c'est un organe consultatif, même s'il est extrêmement suivi. Et c'est un organe consultatif qui fait partie et est nommé comme commission européenne, mais qui est composé d'États membres européens et également d'États qui ne sont pas européens. Donc c'est assez particulier, ça, pour moi ça schématise bien la problématique de l'Europe qui finalement s'accapare les souverainetés nationales sans les respecter, puisque cette commission qui est uniquement consultative, finalement va conseiller les États membres européens, alors que ceux qui font partie de cette commission sont également, pour partie, hein, très minoritaires, mais quand même présents, des États qui ne sont pas européens et qui vont donc finalement avoir des conseils à but consultatif qui vont être apportés aux États européens. C'est assez particulier. On va avoir donc une question de France constituante qui va reprendre la parole, et puis on aura Stéphane juste derrière. Vas-y France.
Oui, alors moi-même j'étais justement en train de regarder un petit peu la liste des membres de cette fameuse commission de Venise dont tu parlais, et effectivement j'ai fait cette même constatation, c'est que je trouve des noms.
Non, c'est pas normal, Raoul.
Ah. Oui, tu m'entends? Vous m'entendez, Raoul, là?
Donc je sais pas quoi faire.
Vous m'entendez?
Raoul, vous m'entendez là?
Attends, François, je vais essayer de régler ça. Raoul, est-ce que tu m'entends, moi?
Oui, je t'entends.
Si tu m'entends, nous, on entend France, et donc toi qui as un petit problème. Si tu peux redescendre un auditeur et remonter tout de suite, ça pourrait régler le problème. Et on va attendre que tu remontes pour être sûr que tu entends France, puisque c'est à toi que s'adresse sa question. Enfin, c'est toi l'intervenant principal de ce space. Donc, on va juste attendre quelques secondes qu'il remonte en intervenant. Ce soir.
Non.
Oui, on t'entend en France. Hein. Juste, je vais te demander de patienter un petit peu le temps que Raoul revienne, parce que bon, on a des petits problèmes de connexion.
Je coupe mon micro en attendant.
Oui. Bon, après, en 2024, c'est normal qu'on ait quelques problèmes. Hein. La technique est toute neuve, c'est récent, hein, Internet. Hein. Je ne sais pas pour vous.
On peut rire, là.
Oh, tu as le droit de rire. Hein. C'est, de toute façon, ça, c'est encore quelque chose qui est pour le moment gratuit. Donc, n'hésitez pas, profitez-en. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Hein. Il y a le rire et l'air qui, pour le moment, sont encore gratuits. Pour le reste, vous savez ce qu'il en est. Donc, bon, du coup, on a perdu. Non, Raoul, je ne le vois pas. Il ne remonte pas. Donc, je ne vais pas pouvoir répondre à sa place parce que là, c'est très technique. Hein, et justement, c'est son niveau de...
Oui, ben en attendant, En attendant, je vais continuer mon petit speech sur la commission de Venise. Oui, alors effectivement, moi j'ai fait la même constatation que toi, justement, qu'il y avait des membres qui, franchement, je me demandais ce qu'ils foutaient là-dedans. Hein, je vois par exemple les États-Unis, le Canada, le Maroc, le Mexique. Voilà, tout ça, c'est des pays vachement européens, quoi. Voilà. Bon.
Tu as des pays.
Qui sont donc intervenants dans
les comptes rendus consultatifs, dans les colloques, dans ils font des formations, des séminaires, des choses comme cela. Et tu as également des pays qui ne sont là qu'en observateurs, ils ne sont pas intervenants.
Tout à fait. D'ailleurs, je note qu'il y a un pays justement de l'Union européenne dans les pays observateurs. Il me semble que le Vatican fait partie de l'Union européenne. Voilà.
Ouais, voilà, donc c'est bon. Mais encore une fois, c'est un organe qui est consultatif, hein, donc il n'a pas de pouvoir coercitif finalement. Donc, mais c'est vrai que c'est quand même très particulier que de voir que finalement on a comme cela un organe qui est utilisé par les instances européennes pour conseiller les États membres européens sur les évolutions éventuelles et le développement du patrimoine constitutionnel de chaque État, et que ces consultations sont apportées par d'autres États qui, justement, pourraient avoir des intérêts géostratégiques à empêcher des évolutions constitutionnelles. Par exemple, faire en sorte que des constitutions deviennent de véritables systèmes démocratiques peut être dérangeant pour des États qui, eux, voudraient surtout éviter le développement des États démocratiques parce que ça leur apporterait à eux aussi l'obligation de se poser la question de savoir s'ils sont ou non démocratiques. Donc c'est là où on se rend bien compte que l'Europe, dans sa structure même, même si encore une fois ce n'est que consultatif, dans sa structure même, l'Europe est quelque chose qui combat la souveraineté des États et qui elle-même, en tant qu'institution, rejette en quelque sorte sa souveraineté, quoi. C'est-à-dire que je ne comprends pas l'intérêt d'avoir un organe consultatif européen qui fasse appel à d'autres États qui ne sont pas de cette institution européenne. Voilà, donc on comble, on a vraiment perdu Raoul dans les...
Raoul, je viens de le voir, il est dans les auditeurs actuellement. Hein.
Je n'arrive pas à le faire monter, je l'invite à co-ôter aussi et ça ne fonctionne pas. Est-ce que tu peux essayer de ton côté? Pendant ce temps-là, je vais en profiter pour annoncer les programmes des semaines à venir. Donc la semaine prochaine, le mardi 5 novembre, nous aurons Didier Maisto qui sera notre invité. Nous allons essayer de faire une thématique sur la séparation des pouvoirs et la restructuration étatique, ou la fin de la représentativité, certainement aussi, connaissant Didier Maisto, en rebondissant à travers la démocratie directe sur l'actualité du moment. Il nous fait donc le plaisir d'accepter notre invitation. Et la semaine du 12 novembre, nous aurons donc Fañch Bordeaux, ici présent et intervenant, qui présentera son modèle sur la France constituante pour nous expliquer cette fois-ci comment nous faisons. Le 19-11, une surprise en devenir, dont je ne peux pas encore en parler parce qu'on n'a pas booké tout à fait la date avec cet invité surprise. Et le 26 novembre, nous aurons donc Fred pour l'ARAC. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire une réflexion sur une nouvelle manière éventuellement de financer la presse au sein d'une démocratie directe que nous avions déjà eue, bien sûr, en tant qu'intervenant lors de nos premiers Space.
Et je pense qui est la redevance audiovisuelle citoyenne.
Tout à fait. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, sauf une ou deux personnes qui sont encore avec des modèles en devenir, mais qui risqueraient d'intervenir, nous aurons terminé notre première période de consultation, d'écoute, ce qui pourra nous mener dans un second temps à essayer d'avoir à la fois des invités spécifiques, soit du monde politique, soit du monde de la presse plutôt alternative, on va dire. Et nous aurons deux spaces qui commenceront éventuellement à établir une stratégie, puisque l'objectif de ces sessions, ce n'est pas de faire de la réunion unique, mais c'est d'essayer de penser à échéance brève, voire courte pour les municipales de 2026 et pour peut-être les présidentielles, et qui sait, pratiquer une petite surprise démocratique. On peut toujours rêver, même si on est peu à partager ce point de vue. On aura donc certainement, une fois les périodes de consultation, d'écoute de tous, et sur le fait de les supporter dans le bon sens du terme, hein, et non pas dans le sens négatif du terme, nous serons appelés à faire à la fois un space sur l'ensemble des stratégies de prise de pouvoir, comment chaque intervenant aujourd'hui qui compte au sein de la démocratie participative aura le moyen d'exposer sa stratégie, ce qui pourront éventuellement amener à la fois à fédérer les énergies, mais aussi à donner des pistes pour tous. Et puis, on dédiera certainement un space, grâce au travail et à la collaboration que j'ai établi avec Daniel Favary, sur un contrat d'engagement électoral qui rendra peut-être possible juridiquement, c'est encore là aussi à étudier, le mandat impératif que nous appelons tous de nos voeux. Alors, je ne sais pas si Roll arrive
Non, j'arrive pas à le faire monter non plus, mais alors justement, il est en auditeur. Donc, Raoul, si tu nous entends, je pense que le plus simple, c'est peut-être que tu éteignes carrément ton téléphone. Parfois, en fait, tu as les données qui sont saturées, parce que là, en fait, tu es le seul qu'on ne peut pas faire monter. Donc, c'est que le problème vient plutôt de ton côté. C'est dommage. Il faudrait que tu puisses éventuellement éteindre et redémarrer ton téléphone. On va essayer de combler en t'attendant que tu reviennes. Et puis, du coup, France Constituante et Pascal te poseront les questions qu'ils auront pour toi. Mais là, enfin, moi, je t'ai envoyé pas mal de demandes à venir parler et apparemment, tu ne peux pas le faire. Donc, moi, je le vois encore en auditeur. Je ne sais pas s'il nous entend. Peut-être, Stéphane, que tu puisses prendre le temps de le contacter par d'autres biais, de façon à voir avec lui. Et puis, moi, je vais essayer pour le moment de préparer justement les questions, sachant qu'on a eu une question également dans la bulle, une question de McCall. Qui fait son timide ce soir et qui ne monte pas prendre la parole, mais qui a une question qu'on pourra poser effectivement à Raoul, s'il arrive à revenir avec nous, qui est très intéressante. C'est finalement quelle position est celle de solution démocratique par rapport à l'Europe? On vient d'en parler sous le prisme de cette fameuse commission de Venise et des particularités de commissions européennes qui sont composées d'États qui ne sont pas forcément et exclusivement européens. Et du coup, qu'est-ce qu'il en est véritablement du positionnement de solutions démocratiques qui, encore une fois, est constitué en tant que parti politique? Et donc, quel est leur positionnement sur l'Union européenne? D'autant que, comme le précise McCall, on a la Suisse qui s'est vue recommander d'abandonner ses référendums pour pouvoir adhérer à l'Europe. Bon, bien entendu, on sait ce qu'il en est et on sait ce que cela va provoquer. En Suisse. Voilà. Ensuite, comme l'a expliqué Stéphane, donc la semaine prochaine, on aura Didier Maistre. Alors sans trop dévoiler, mais il l'a déjà abordé sur un autre space dernièrement et il a déjà communiqué un petit peu sens. Il est avec d'autres dans un travail de rédaction constitutionnelle et donc c'est à ce titre que nous l'invitons sur les spaces de démocratie directe pour qu'il puisse justement exprimer son positionnement face à la démocratie directe, qui n'est pas forcément la vision absolue qui peut être la sienne et que l'on pourra essayer justement de juger et de questionner. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas, parce qu'il est évident qu'une personne comme Didier Maistre dispose d'une notoriété et donc d'un auditoire qui permet peut-être de favoriser la discussion autour de la démocratie directe. On le sait, c'est un sujet qui est facilement banni de beaucoup de médias, et quand quelques-uns ont encore accès à certains de ces médias, c'est pas négligeable que de pouvoir essayer de s'accrocher à leur notoriété pour promouvoir l'idée de cette démocratie directe que la majorité des médias mainstream et puis des personnalités publiques essayent d'éviter. Et d'ailleurs, à ce titre, comme l'a dit Stéphane, on ne peut pas vous dire encore qui seront d'autres invités qui sont en pourparlers, en planification, mais nous aurons d'autres invités de l'Acabit de Didier Maistre qui pourraient effectivement venir également partager leurs actions, leur positionnement sur la démocratie directe, les actions qu'ils sont en train de mener, tout simplement parce que cette idée de démocratie directe est en train de vraiment faire son chemin. J'espère que vous pouvez également le constater. Nous, en tout cas, on s'en rend compte du fait que pour beaucoup, aujourd'hui, dans les sondages, même si certains savent que je ne suis pas forcément favorable à ça, mais quand on a une expression à travers une étude récemment publiée que 25% des personnes interrogées considèrent que notre République, hein, ils ont appelé ça démocratie, mais le système d'organisation politique ne fonctionne pas, n'est pas efficient, eh bien, c'est que forcément, il y a une volonté qui émerge de changement. Donc, voilà pour ce qui est de ce petit temps que j'ai essayé de combler. Je ne vois plus Raoul, donc il est sûrement en train de redémarrer sa machine ou son téléphone. Du coup, on
Oui,
va.
on est avec lui, il est en train de redémarrer. J'en
Bon.
profite pour communiquer à tous une information que m'a donnée en message privé Fadila Brahimi, qui était parmi nos auditeurs et qui anime ces spaces aussi avec grande réussite. Je vous encourage d'ailleurs à écouter ces spaces, c'est toujours très intéressant, qui sont toujours plus dirigés sur le numérique et la législation, mais c'est aussi une personne très attachante et à multiples facettes. Elle vient de m'envoyer une information pour les possesseurs de iOS, donc ceux qui ont des iPhones. Apparemment, il y aurait un très gros correctif à faire sur iOS. Et si jamais la mise à jour ne vous est pas proposée, il faudrait forcer le système, ce qui expliquerait peut-être que l'on trouve certains problèmes techniques. Merci à Fadia de cette information. Et je vois que Raoul est remonté.
Oui.
Il est en intervenant, donc on va pouvoir
continuer.
On n'aura pas trop ramé sur ce coup-ci.
Bon, et effectivement, vérifiez bien que votre iOS est en 18.1, puisque le correctif est tombé hier, et que si vous ne l'avez pas fait, ça peut effectivement être source de problèmes. Donc du coup, on va redonner la parole à France Constituante qui avait une question pour Raoul, et puis ensuite nous aurons Pascal qui reprendra la main. Vas-y France, on t'écoute.
Alors, tout à fait. Alors, ma question, Raoul, est là encore une question technique. En début de ton intervention, vous parliez d'un seuil de déclenchement de 700 000. En fait, c'est une question qui est très intéressée en ce qui nous concerne, parce que justement, nous, on étudie justement ces histoires de seuil. Et je voudrais savoir comment vous avez fait pour déterminer ce nombre de 700 000, s'il vous plaît. Merci.
Alors, merci pour cette question et désolé. Hein, et d'ailleurs, la solution que Stéphane m'a donnée, j'imagine, des vidéocraties, vous êtes à la manœuvre là-dessus, c'est de rééteindre et réallumer mon téléphone. C'est ce qui a marché. Hein, donc pour ceux qui ont des problèmes, voilà. Bien, pour la question, donc comment on a déterminé le seuil de 700 000 signatures? Donc, tout d'abord, il y a... On est parti du principe que la meilleure situation, on va dire, c'est un seuil bas. Alors, naturellement, quand un seuil est trop bas, le risque, c'est qu'on vote beaucoup trop dans l'année. Et si on vote trop, ce n'est pas en soi un risque, mais le risque, c'est qu'on n'ait pas le temps de débattre des différents votes. Ou du moins, il y en a trop donc on ne peut pas se concentrer sur tous. Donc, l'idée, c'est qu'il y en ait beaucoup, chaque citoyen ait une chance de lancer un référendum lorsqu'il a une idée, mais qui est quand même un moyen de sélectionner ceux qui ont un minimum de soutien. Donc, sur ça, on s'est basé sur les systèmes étrangers. Et donc, notamment, on a un seuil de... un des seuils les plus bas, c'est de 1%, voire 0,18% dans certains cantons, comme le canton de Bâle. 1%, ça existe en Italie pour un riz qui n'est pas constituant, mais qui est abrogatif. Et en Suisse, le seuil est 2%. Le pourcentage ne dit pas tout, parce que ça dépend de la population. Donc, quand un pays a une population petite, il peut se permettre des pourcentages plus élevés. Donc, la France étant un gros pays, un pourcentage de type suisse, 2%, c'était bien, mais c'était plus dur qu'en Suisse. Donc, 700 000 citoyens, c'est un seuil qui est environ 1,8. Donc, c'est beaucoup plus élevé que le seuil abrogatif italien, c'est quand même constitutionnel, mais il est un peu inférieur à celui suisse. Donc, au final, il produit un nombre de votations qui est un tout petit peu inférieur au nombre qu'il y a en Suisse. Voilà.
Merci, Raoul. Merci. Du coup, on avait Pascal qui voulait te poser une autre question.
Oui.
Oui, juste une parenthèse sur la commission de Venise. On a parlé des États, mais ça serait bien aussi d'aller regarder un peu ses membres. Dans ses membres, on a des cadors du droit constitutionnel. Et cette commission rend des décisions, des avis consultatifs, comme tu l'as précisé, des bureaucraties, qui sont vraiment très intéressants à aller lire. Donc j'invite tout le monde à aller regarder d'un peu plus près ce que produit cette institution, d'autant plus qu'on ne nous en parle jamais. On nous dit qu'il y a la Commission européenne, qu'il y a le Parlement européen, mais on ne parle jamais de cette commission. Et donc là, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille pour aller voir de près ce qu'elle fabrique. Oui, Raoul, tu as dit une chose vraie tout à l'heure au sujet du débat entre la souveraineté nationale et la souveraineté populaire. En fait, tout dépend de ce qu'on met dedans. Tout dépend de ce qu'on met dans la souveraineté nationale et dans la souveraineté populaire. Tu as dit que si... on était 100% souveraineté populaire, à ce moment-là, il ne pourrait pas y avoir de représentation. Et c'est vrai ce que tu dis. Et c'est vrai aussi qu'on peut être dans la souveraineté nationale, mais en changeant les règles du jeu. Mais là, on en revient toujours au même problème de l'adoption de notre Constitution, qui dit que nous sommes attachés au principe de la souveraineté nationale qui ont été établies en 1789 dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et cette souveraineté nationale-là, celle-ci, hein, la nôtre actuellement, elle prévoit un régime tentatif. Donc, on ne peut pas, en fait, envisager une amélioration de nos droits politiques à un point tel que nous pourrions donc modifier la Constitution ou avoir l'initiative d'un référendum d'un RIC, parce qu'on est, pieds et poings liés, en fait, dans cette souveraineté nationale-là. Et pour changer cela, pour qu'on puisse changer cela, il faudrait avoir un alignement des planètes à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Conseil constitutionnel, à la Commission des lois constitutionnelles et au président de la République qui peut mettre son veto. Et ça, je crois que ça n'arrivera pas.
Raoul, j'avais oublié d'éteindre mon micro. Donc, merci. Donc, on revient sur cette discussion. Alors, quelle est la souveraineté nationale en France? Alors, juste, je reviens sur la discussion parce que je suis en désaccord avec toi, hein, Pascal, donc on va revenir au texte. La souveraineté nationale est précisée, c'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, une souveraineté nationale, quand la souveraineté appartient à la nation, après, il faut préciser qui est le représentant de la nation, d'accord? Donc, est-ce que c'est le peuple, est-ce que c'est les représentants, voire le roi, voilà. Dans la Déclaration des droits de l'homme, donc c'est pas précisé dans notre Constitution, dans l'article 3. L'article 3 dit « La souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum. » Donc, où est le problème ici? Elle appartient au peuple, c'est parfait pour nous. Qu'il exerce par deux canaux, les représentants et le référendum. Nous, on veut faire peser la deuxième, alors qu'aujourd'hui, c'est la première qui pèse. Mais aucune des deux n'est en contradiction avec la Constitution. Donc, je ne vois pas le problème que tu soulèves, Pascal. La souveraineté nationale que nous avons, nous, dans notre Constitution, ne se repose pas uniquement sur les représentants élus.
Merci Raoul, on voit. Sauf ouais, si Pascal avait besoin.
Excuse-moi, je me permets d'intervenir. Raoul, on pourrait quand même objectiver que de façon empirique, on constate depuis des décennies que déjà on n'a pas de référendum depuis 2005 et que jusqu'à présent, les politiques et nos représentants de droite comme de gauche d'ailleurs ont réussi à manipuler la Constitution et à faire de la République ce qu'ils en ont voulu. Est-ce que quelque part, il n'y a pas une forme de naïveté de penser qu'on puisse arriver à aménager et à réformer le Titanic sans avoir la possibilité d'obtenir les rênes et autre question, puisque c'est un sujet qui revient et que Michael a posé, mais qui revient souvent dans nos discussions, c'est la hiérarchie des normes. Et quid de l'UE, qui, bien entendu, on le voit à de multiples reprises, ont pris des décisions qui étaient contre la souveraineté constitutionnelle française. Et dernièrement, je ne sais plus à quel sujet, il doit y avoir quelqu'un dans l'auditoire qui doit le savoir, je l'avais noté mais j'ai oublié de préciser la chose, mais on a bien vu qu'il y avait une décision de l'UE qui contrevenait à une décision constitutionnelle française. Je suis désolé d'employer le mot naïveté, hein, c'est pas une attaque ad nominem, hein, c'est juste pour alimenter le débat. On a beaucoup de gens qui pensent que sans Frexit, sans sortie de l'UE, on n'arrivera pas à grand-chose. Qu'as-tu à dire à ce sujet, Raoul, s'il te plaît?
Oui, je ne le prends pas à dominem, hein, ne t'inquiète pas. Déjà, tu as dit de façon empirique. Donc, c'est important de séparer le droit de la pratique. Donc, le droit, je pense que j'ai répondu à la question d'avant. J'imagine qu'il n'y a pas d'autres questions. Peut-être qu'il y aura. En tout cas, toi, tu me poses la question. OK, même si en termes de droit, vous avez raison, en termes empiriques, comment vous pouvez penser de réussir alors qu'on a des politiciens tellement opposés? Et c'est un peu, ça rejoint la question que j'ai déjà reçue tout à l'heure. Eh bien, je peux dire que, comme je le disais, il y a des pays qui l'ont obtenu. Et en fait, avec Clara, avec qui on milite et on écrit, on a étudié assez de façon détaillée sur comment l'ont obtenu ces pays le contrôle de leur constitution. Parce que eux aussi, quand ils l'ont obtenu, avaient le problème de politiciens qui étaient contre. Et pas que des politiciens d'ailleurs, beaucoup de membres de l'élite qui étaient contre. Et qui étaient paniqués d'ailleurs, une fois que c'est passé. Donc, on a vu ça et je peux dire que voilà, c'est possible, ça a été fait, ça a été fait par des canaux légaux, par des politiciens sous pression, et que c'est arrivé rarement dans l'histoire du monde, mais en tout cas, les conditions qui doivent être présentes le sont relativement plus en France que dans d'autres pays. Donc, je pense qu'on est naïf jusqu'à ce qu'on a obtenu ce qu'on voulait, quoi. Donc, on l'a pas obtenu, on peut toujours. Parce que de l'autre côté, il faut voir qu'est-ce que nous avons comme alternative. L'alternative, c'est renverser la table totalement. Bon, là aussi, il y a une bonne dose de naïveté à penser qu'on peut renverser la table des citoyens qui doivent bosser pour manger, qui n'ont pas d'armes, etc. Donc, voilà, l'option, c'est pour nous, quand on choisit une stratégie, elle se base toujours sur ce qui a été fait avant. On ne va pas là-dessus, quand il s'agit de l'action, c'est important de ne pas être trop novateur et d'essayer de se baser sur ce qui fonctionne, quoi. Donc voilà, ça serait ma première réponse. Je peux passer à l'Union européenne, sauf s'il y a une
Oui, moi
réaction.
je vais me permettre de prolonger un petit peu. Parce que je comprends bien l'idée de se dire on va essayer d'utiliser ce qui a déjà marché, même si ce n'est pas forcément représentatif de la facilité, en quelque sorte. Hein, c'est complexe, c'est compliqué, c'est difficile, mais ça a déjà marché. Finalement, est-ce que le fait que ça ait déjà marché n'est pas quelque chose qui a pu être anticipé par nos responsables. On le voit bien, on est dans des systèmes qui deviennent de plus en plus fermés. Et donc, la question, pour prolonger un peu celle de Stéphane, c'est que finalement, si nous avons conscience qu'il existe une toute petite fenêtre, celle que tu expliques, cette petite fenêtre existe, mais ceux qui sont au pouvoir et qui ne veulent absolument pas nous le concéder, à nous, les citoyens, ont conscience que cette petite fenêtre existe aussi. Et du coup, est-ce que ne pas vouloir justement aller chercher quelque chose d'innovant, quelque chose auquel ils ne s'attendent pas, et je ne parle pas de révolution armée, militaire, de conflit dans la rue, ce n'est pas du tout ce à quoi je pense, mais se priver justement de l'innovation, de la possibilité de se dire on peut faire autrement, est-ce finalement, alors encore une fois, je ne dis pas qu'il faut se priver de votre stratégie, mais est-ce que vous ne pensez pas que cette stratégie, parce qu'elle est connue en quelque sorte par ceux qui sont du camp d'en face, a quand même un petit peu moins de chances de pouvoir réussir qu'elle ne l'avait il y a des années, quand justement elle a pu être appliquée ailleurs?
Alors, c'est une idée sympa déjà de dire ça. C'est une option qui peut être pensée. Mais toutefois, je vais te dire pourquoi je ne pense pas. Parce que si on veut, les périodes où ont été obtenues ces réformes-là, c'est des périodes qui sont très lointaines, en fait. C'est fin 19e siècle, début 20e. En fait, la situation s'est corsée, en fait. C'était dur pour ce type de revendication à partir des années 20-30, on va dire, et surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, c'était dur parce qu'à ce moment-là, les systèmes se sont ouverts, en fait, paradoxalement. C'est-à-dire que nous, on est en train de voir notre système qui se ferme, mais là, tu as raison, mais qui ne se ferme pas par rapport au passé, se ferme par rapport au passé récent. Parce que la situation au début du XXe siècle était extrêmement fermée, était semblable à celle d'aujourd'hui. Si bien que les partis qui émergeaient du
Ah, je me permets
suffrage
de te couper,
universel.
Raoul. Je me
Ouais.
permets de te couper. Elle était effectivement équivalente à aujourd'hui, voire même pire sur le plan du droit, mais sur le plan du rapport de force, justement, de la rue, c'était pas comme aujourd'hui. Et je pense que c'était ça aussi peut-être la différence. C'est que si aujourd'hui nous avons, d'un point de vue politique, régressé par rapport aux années 50, 60, 70, d'un point de vue du rapport de force physique, nous avons énormément perdu par rapport aux années, justement, il y a 100 ans. Si on prend il y a 100 ans, la différence du rapport de force armée a énormément évolué.
Voilà, mais sauf que, ça je suis d'accord, mais sauf que ce qui faisait flipper, c'est-à-dire le moment où ces choses ont été mises très concrètement à l'époque, c'était essentiellement les partis socialistes. La montée en voie des partis socialistes. Ce n'était pas les attentats et la puissance de la rue, c'était les urnes. C'est-à-dire que d'ailleurs, il y avait systématiquement les partis socialistes à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, hein, je le dis, vous le savez, mais je le dis pour tout le monde, c'était pas des partis socialistes, c'était des partis qui représentaient les populations qui votaient pas avant, et qui étaient donc très craintes, tout simplement parce que ils étaient pauvres, ils avaient pas d'éducation, donc ils allaient renverser totalement la table s'ils prenaient le pouvoir. Et ça, c'était très, très craint. Il y avait beaucoup de changements de systèmes électoraux pour faire en sorte de pouvoir gagner plus de sièges avec moins de voix, et donc pour éviter que la montée des partis socialistes prenne le pouvoir. Et c'est à ce moment-là que les réformes de contrôle citoyen de la Constitution a parlé dans un certain nombre de contextes, parce que précisément, au moment où la peur était que les socialistes arrivaient au pouvoir et faisaient leur loi, ça faisait un contre-pouvoir d'avoir accès à la votation populaire. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. On est en train d'essayer d'empêcher des partis d'arriver au pouvoir, en gros l'extrême gauche, l'extrême droite. Et donc, on a cette situation dans laquelle ces partis-là sont sensibles d'une certaine manière, hein, même si plus ils espèrent prendre le pouvoir, moins ils sont sensibles. Mais ils sont sensibles à cette arme, et les partis au pouvoir, au moment où ils vont perdre un peu, ils vont être sensibles aussi à cette arme. Donc, nous, ce qu'on constate, c'est que c'est le rapport de force en termes de urnes qui compte, pas le rapport de force dans la rue. Enfin, au moins temporellement, au moment où les réformes ont été faites, c'était ça. Voilà.
Alors, je vais juste reprendre très rapidement pour éviter un ping-pong trop long. Il y a une citation de Franck Lepage que tu connais peut-être, qui, moi, m'avait beaucoup fait rire quand il expliquait que les acquis sociaux, ils avaient été obtenus. Pourquoi ? Parce qu'on avait un parti communiste qui était à 35% et qui était armé à la sortie de la guerre. Et que finalement, alors il le prenait dans un rapport au capitalisme, hein, et finalement, vouloir réguler le capitalisme, c'est un peu comme vouloir calmer un fauve, hein. Donc si tu es face à un lion et que tu dis « Kiki, calme-toi, reste assis », tu te fais dévorer. Par contre, si tu es sur un éléphant avec un fusil, là, tu peux dire « Kiki, calme-toi ». Et c'est ce rapport de force qui n'a pas besoin d'être forcément… c'est un peu comme l'arme nucléaire. Le but, ce n'est pas de l'utiliser, c'est d'avoir un moyen de dissuasion, un moyen de pression. Et quand on voit aujourd'hui que le rapport de force de la contestation par la rue n'a plus aucun moyen d'expression, parce qu'on a en face de nous des Robocop surarmés qui n'offrent plus cette possibilité, eh bien, le rap démocratique dans les urnes, le rapport politique, il est forcément affaibli. C'est dans ce sens-là.
Ce plan-là, il y a quand même une exagération de Franck Lepage et de toi, même si ce que vous dites est correct. D'ailleurs, les pays qui ont la votation populaire ont gardé le service militaire obligatoire, et chacun a des armes chez lui. Et c'est clair qu'avoir un pays avec des gens qui ont des armes chez eux, ça fait qu'on doit faire attention que les lois sont justes, parce qu'autrement, disons, un système injuste n'est pas compatible avec des gens armés. Ça, c'est tout à fait exact. Et je pense que le fait d'armer ses citoyens, c'est une forme d'acquis social également. Donc, quand on ne l'a pas, c'est un handicap, certainement. Maintenant, l'exagération consiste à penser qu'un handicap, c'est une impossibilité. Mais ça, c'est incorrect. Ne serait-ce que lors des premières manifestations des Gilets jaunes, il y avait une énorme panique à bord, et qui s'est calmée, disons, au mois de février, mars, quand les choses ont pu se... Enfin, la pression était moins forte. Et pourquoi ? Parce que même si les Gilets jaunes n'étaient pas armés, un mouvement large qui a le soutien des gens fait que tes lois ne marchent plus, tu vois. Les gens n'obéissent plus aux lois et ils votent plus pour toi. Alors, même s'ils votent pas, tu peux continuer à être élu, mais partout où tu vas, tu as une insécurité. Donc, c'est une situation qui est difficile à tenir. Or, pourquoi je dis que les élections sont si importantes? Parce que quand les élections donnent un message, c'est un peu le rapport de force des différents groupes. Donc, quand il y a un rapport de force qui est favorable à un groupe, mais celui-ci ne gouverne pas, on a tous les électeurs de ce groupe qui sont conscients, qui sont nombreux, et qui, s'ils se mobilisent, ça va faire mal. Alors que sans ça, les gens ne se mobilisent pas. La raison pour laquelle il y avait une mobilisation de rue à cette époque-là, c'est parce qu'il y avait des signaux qui étaient nombreux. Quand on va dans la rue, on n'a pas peur d'être trop appelé et tous les autres restent à la maison, on sait qu'il y aura du monde. Donc c'est ça le message qui ressort. Si tu as des armes, ça renforce. Et si tu n'as pas d'armes, à la fin, un pays et des politiciens ne tiennent pas si les gens n'obéissent pas à ce qu'ils disent. On le voit beaucoup en Amérique latine maintenant, quand il y a des émeutes carrément, ben c'est intenable. Les gens, les politiciens, c'est la peur numéro un, c'est l'émeute. Parce que les émeutes font que même des citoyens pas armés, ben, tes lois ne valent plus rien en fait. Donc voilà, l'idée c'est arriver à ça, arriver à ce signal qui fait que les personnes instruites par le passé d'ailleurs, vont préférer faire des lois qui les désavantagent.
Ah, alors je ne sais pas si c'est moi encore une fois.
Non, on a reperdu.
C'est Raoul qui est reparti.
Il y a un problème de connexion visiblement.
Ah.
Ça y est, c'est revenu.
On ne m'entend pas.
Si, c'est revenu.
Ouais, revenu. Est-ce que tu pourrais enchaîner, Raoul? Tu nous as demandé, tu as largement dépassé le temps que tu nous avais demandé, mais on te remercie. On te garde, on a encore 2, 3, 4, 5 grosses questions à te poser. Est-ce que tu pourrais enchaîner sur l'UE? Parce que je pense que c'est un sujet que tout le monde attend avec impatience pour savoir ta position et celle de ton parti à ce sujet-là et sur donc cette fameuse hiérarchie des normes et cette empreinte de l'UE sur notre constitution et cette priorisation qui a du mal à être définie. Il semblerait, je ne suis pas un juriste, mais il semblerait qu'il y ait quand même un débat juridique absolu là-dessus et qu'encore une fois, de façon empirique, on sent que souvent, les constitutionnalistes français pro-UE se couchent devant les décisions de l'UE. Donc, on attend ton avis là-dessus avec impatience.
Il y a un débat, mais il faut savoir où il est. Parce que je pense que le débat que la plupart du temps, je me retrouve à faire avec des gens qui disent sans Frexit, rien n'est possible, c'est pas un débat juridique, c'est pas un vrai débat, c'est un débat qui est tranché. Donc, je vais dire ce qui est tranché, et puis je vais dire où est le débat, au moins à mes yeux. Donc, ce qui est tranché, c'est qu'il y a une hiérarchie des normes, qui fait que les constitutions qui, comme on disait tout à l'heure, sont basées sur la souveraineté nationale, eh bien, priment sur le droit européen. Ça, c'est tranché. Si bien que l'Union européenne, quand elle veut demander des choses qui sont en contradiction avec la Constitution, elle demande aux États de changer leur Constitution. OK, il fait cette demande-là. Changez votre Constitution pour vous aligner avec les principes de l'Union européenne. Vous remarquerez que ce n'est pas du tout pas le cas, ce n'est pas du tout le cas pour la législation ordinaire. Pourquoi? Parce que comme la législation européenne est au-dessus de la loi ordinaire, on n'a pas besoin de la changer. C'est juste la législation européenne s'impose toute seule sur la loi ordinaire. C'est-à-dire, il y a une loi nationale qui dit A, une loi européenne qui dit non A, le juge est tenu de suivre non A. On n'a pas besoin de changer la loi ordinaire. En revanche, on a besoin de changer la Constitution. Pourquoi? Parce que le juge est tenu de suivre sa Constitution. Voilà. Donc, ce débat-là est absolument juste non discutable. C'est un fait, quoi. C'est n'importe quel juriste vous le confirmera. Par contre, le débat est de dire est-ce que les États peuvent décemment contredire l'Union européenne alors qu'ils se sont engagés librement, comme c'est écrit dans l'Union européenne, à suivre les principes de l'Union européenne. Si on s'est engagé librement, alors on doit tenir ses engagements, n'est-ce pas? Donc, en fait, quand on signe un contrat, on est toujours souverain de nous-mêmes, mais on s'est engagé à quelque chose.
Et ça ne vaut pas pour la loi européenne seulement, ça vaut pour toutes les contraintes internationales que les pays ont prises. Et c'est vrai que quand on va les rompre, ben, on a des sanctions du partenaire qui sont prévues dans l'accord. Pas tous les accords internationaux ont ça, mais ceux qu'on veut qu'ils soient respectés, oui, parce que toutes les parties doivent s'assurer que l'autre partie doit la respecter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si un pays décide de partir de l'Union européenne ou de modifier une partie de sa constitution qui n'est plus compatible avec le droit européen, alors l'Union européenne va essayer de la sanctionner. Dans les deux cas, hein, ce n'est pas que le Frexit nous sauve de ça. Le Frexit, c'est pareil. Si on sort, les autres États vont essayer de négocier un maximum pour nous faire payer. Alors, la question est donc, c'est même plus une question de ce qui prime, c'est une question de rapport de force en réalité. Le rapport de force avec l'Union européenne existe. Maintenant, il y a quand même des pays qui sont en rapport de force largement défavorable. Donc, si on était en Grèce, si on était en Pologne, ben, on serait là à dire, bon, c'est difficile pour nous. Parce que si on ne respecte pas les principes de l'Union européenne, elle peut nous chasser, nous mettre une pression incroyable, et nous, on ne veut pas, parce qu'on est à côté de la Russie, de la Turquie, et voilà. Alors que d'autres pays sont plus tranquilles, et parmi ces pays, il y a la France. Parce que la France, en fait, déjà, elle ne suit pas mal de choix de l'Union européenne, elle a été condamnée plusieurs fois, elle ne paye jamais, et d'ailleurs, souvent, elle n'est même pas condamnée, c'est-à-dire que en gros, la dette publique, le déficit public que les pays européens sont autorisés à avoir, c'est celui de la France. Tout simplement parce que la France est de plus en plus gros, mais on ne peut pas condamner la France. Donc, on a dans un pays qui a un bon rapport de force. Donc, s'il y a un pays en Europe où on peut faire des lois pour contredire, et d'autres pays suivront, hein, parce que c'est un exemple, eh bien, c'est bien la France. Donc, c'est un combat qui, à mon avis, doit être mené en France plutôt que le Frexit, qui est, au demeurant, une position que, si elle est votée, ça me va très bien. Mais le mieux, c'est voter loi par loi plutôt qu'un Frexit général, comme l'ont eu les Anglais, parce que quand on fait un Frexit général, eh ben, c'est nos gouvernants qui négocient les termes. Alors que quand on fait une sortie point par point, non. Donc, au moins, disons, ils sont plus contraints. Donc, voilà pourquoi je suis plus favorable à ça.
Je vais me permettre de prolonger un petit peu, parce qu'il y a la partie législative, mais il y a aussi la partie monétaire. C'est-à-dire que, finalement, déjà, quand tu dis, Raoul, que la France a un poids non négligeable dans les négociations au sein de l'Europe, c'est simplement parce que, d'un point de vue monétaire, étant le deuxième contributeur net à l'Europe, il est évident que l'Europe sans la France serait fortement embêtée, d'où le laxisme de l'Europe envers la France. Mais d'un point de vue purement économique, l'Europe est faite pour l'Allemagne, pas pour la France et les pays du sud de l'Europe. Donc, le problème, c'est quoi? C'est que la souveraineté, en tout cas ça c'est ma conception, la souveraineté soit elle est entière, soit elle n'est pas. Et donc, à partir du moment où nous n'avons pas notre souveraineté économique au sein de l'Europe, on peut toujours négocier loi par loi, finalement, nous serons dans une incapacité de faire ce qui est nécessaire pour la France, parce que l'euro a été construit pour l'Allemagne, pas pour la France.
Écoute, alors, que l'euro ait été construit pour l'Allemagne, c'est certain, il y a après plusieurs façons de le dire, hein. C'est-à-dire que c'était pas évident de le construire pour les pays du sud de l'Europe parce qu'ils avaient une politique d'évaluation et de vente pas chère et en fait on est dans une période où les pays asiatiques passent devant nous, donc cette politique-là était quand même difficile à poursuivre, mais on n'était pas obligé de suivre non plus la politique allemande, donc ça il n'y a pas de problème. Maintenant, tu as dit une chose sur laquelle que je pense est totalement, bah, je ne suis pas d'accord, mais aussi est contre, selon moi, le bon sens, de dire la souveraineté, soit elle est entière, soit elle n'est pas. En fait, cette phrase est curieuse, parce qu'on a précisément vécu une amélioration de nos structures démocratiques au moment où on a abandonné ce principe, qui était un principe de la monarchie absolue. La souveraineté, c'est simplement le droit de décider qui décide. Donc, c'est le droit de déléguer quelque chose aussi. Tant qu'on décide qui décide et on peut donc reprendre ensuite les manettes, on reste souverain et on reste souverain en entier, même si on a délégué des choses. Il ne faut pas confondre la souveraineté et l'autonomie ou le pouvoir de décider des choses. Dans le cas monétaire, c'est exactement la même situation. Aujourd'hui, déléguer la fonction monopolistique de la monnaie à la Banque européenne. Mais il y a plein de choses qui aujourd'hui ne sont pas permises, mais qui peuvent être permises demain. Par exemple, la valeur de monnaie locale. Aujourd'hui, il y a beaucoup de contraintes sur les monnaies locales. C'est-à-dire qu'elles doivent être faites, pas dépasser un périmètre géographique. Il ne faut pas qu'elles soient indexées à quoi que ce soit. Donc, et ça, c'est des contraintes législatives. D'un jour à l'autre, on peut dire non. D'un jour à l'autre, on peut dire ben, on suit le Bitcoin est accepté pour toute forme de paiement. Voire en France, on crée une autre monnaie. L'euro, c'est bien, mais on crée aussi une autre monnaie. Toutes ces décisions-là, elles peuvent être prises à tout moment. Tu vois. Donc, c'est l'enjeu est tout simplement de dire est-ce que ça vaut la peine de les prendre ou non ? Enfin, l'enjeu au moment où nous-mêmes on décide. Aujourd'hui, c'est plus compliqué parce que les politiciens, quand ils sont au gouvernement, s'ils prennent une telle décision, eh bien, au sein de leurs partenaires européens, tout le monde va leur dire, en fait, tu nous fais la guerre. Personne n'est obligé à faire ça. Donc, là encore, c'est beaucoup plus facile de manipuler, enfin, de faire en sorte qu'un dictateur choisissent pour pas cher ce qu'on veut, plutôt qu'une population entière. Donc voilà, on est pleinement souverain et on peut demain reprendre le contrôle de la monnaie. Et c'est même pas si dur comme on peut l'imaginer.
Merci. Bon, on tombera pas d'accord sur ces aspects-là. Donc je vais repasser la parole à Stéphane qui avait peut-être d'autres questions ou aux autres si jamais vous en avez. Levez la main.
Oui, une toute petite question qui ne nécessite pas de développement. On a parlé, et Pascal tout à l'heure faisait aussi allusion, à 4 pétitions que vous avez supportées, là aussi dans le bon sens du terme. On ne parle pas des 2 dernières puisqu'elles sont lentes, mais quels ont été les résultats des 2 premières ?
Alors, les résultats formels, juridiques, ou les résultats aussi informels ?
Les 2, mon général.
Alors, juridique, c'est très simple. Résultat, ils sont mauvais, c'est-à-dire qu'ils sont passés en commission des lois. La commission des lois a majoritairement voté pour les classer et elles ont été les 3 classées. Maintenant, en termes informels, ces pétitions nous ont valu une invitation à l'Assemblée nationale pour former un groupe. Nous ont valu le fait que des groupes, du moins là à l'occasion de la gauche, ont commencé à aller voter, ont commencé à discuter, à mettre dans leur agenda le RIC constituant, que tout le monde a pu faire la distinction entre RIC et RIC constituant au niveau des députés. Voilà, donc ça, c'est des conséquences qui sont un petit peu concrètes, c'est-à-dire on a un pied dedans. On est connu à l'Assemblée, on est un groupe d'intérêt, on est une lobby en fait. Solution démocratique est devenue, on a des députés que quand on les appelle et qu'on leur dit il ne faut pas faire ça, ils nous écoutent une fois sur 3, mais c'est mieux que 0, tu vois.
Oui, on est bien d'accord, encore une fois, tout le monde a adhéré solution démocratique et parmi tous les chemins qui pourront mener une forme de liberté et de reprise en main de notre citoyenneté, solution démocratique doit en faire partie. Il n'y a pas d'ambiguïté en ce qui me concerne. J'aurais donc aussi 2 petites questions avant de donner la parole à Pascal qui a levé la main. Bien évidemment, comme tu viens de le dire, solution démocratique est de fait devenue une forme de lobby, un groupe de pression, et bravo pour vous, puisque le travail que vous avez mené depuis des années maintenant, on est conscient, finit petit à petit à payer, même si n'est pas à la hauteur de nos attentes et certainement des vôtres, mais c'est déjà ça et félicitations pour ce travail. Vous allez bien entendu avoir des demandes de parrainage auprès des maires. Est-ce que vous en avez déjà obtenu ou pas? Ces parrainages vont vous mener donc à une candidature forcément au présidentiel. Lors des dernières présidentielles, si je ne m'abuse, Clara Eger était votre candidate. Est-ce qu'aujourd'hui, un choix a été porté sur cet éventuel candidat et où en êtes-vous dans ces démarches de parrainage, même si effectivement, on s'y prend bien à l'avance, mais je pense qu'aujourd'hui, il nous faut anticiper si on veut espérer avoir une petite fenêtre météorologique, comme on dit.
Ben, pour l'instant, donc, il y a déjà des maires, alors vous trouverez des maires qui non seulement nous promettent un parrainage, mais ensuite ils acceptent qu'on publie sur le site leurs promesses, leurs citations, qu'est-ce qu'ils ont dit. Comme vous savez, c'est des promesses, hein, parce que le parrainage se donne à la dernière minute en réalité, donc il faut avoir 1000 promesses pour avoir 500 parrainages. Mais donc on en a déjà. Et on se mobilise. On a plusieurs personnes assez, je dirais même très compétentes, qui permettent d'avoir régulièrement des conversations avec des maires, avec des conseillers municipaux, avec des candidats pour 2026, parce que la spécificité cette fois-ci, c'est qu'il y aura une élection juste avant, l'élection des maires. Et donc, on ne sait pas si les maires d'aujourd'hui sont les maires de demain. Ça, c'est le problème, mais l'avantage, c'est aussi qu'on peut avoir nos propres candidats dans les petites villes, puisqu'on ne va pas gagner à Paris, hein, je ne vous cache pas. Mais par contre, comme vous le savez, en France, il y a beaucoup de communes petites. Et voilà. Ça, donc, on est déjà, c'est déjà en cours. Pour la candidature, oui, c'est Clara Eger qui était en 2022, ça a bien marché. Par défaut, c'est toujours elle. Après, ce qui se passera, c'est que la vraie question, c'est les parrainages, c'est pas la candidature. C'est-à-dire qu'au moment où on décide d'y aller, d'en avoir une de candidature, parce qu'on a suffisamment de soutien et de parrains, eh bien là-dessus, on décidera ensemble de façon consensuelle. Et quand je dis ensemble, j'inclus, que ce soit clair, tous les gens qui se sont investis dans les parrainages, mais pas tous les inscrits, pas tous les membres, pas tous les sympathisants, c'est les gens qui ont mouillé la chemise. Et donc avec ces personnes-là, on choisira de façon consensuelle qui on trouve qui peut aller, aussi parce que Clara, c'était quand même très épuisant de faire une campagne, donc elle n'est pas non plus comment dire. S'il y a quelqu'un d'autre qui reçoit l'approbation, c'est Clara, ça lui va très bien.
Ok, merci Paul de ces précisions. Une petite question subsidiaire avant de redonner la parole à Pascal. Les profils des maires aujourd'hui qui vous apportent au moins une oreille attentive, voire leur appui et des promesses de parrainage, sont-ils des maires qui appliquent déjà la démocratie directe sous forme de référendum local ou de démocratie participative, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui ce mot est tellement galvaudé que on pourrait dire démocratie consultative, puisque la plupart du temps on fait des consultations citoyennes alors que les décisions sont déjà prises pour essayer de calmer le bon peuple. Quel est le profil moyen, si tant est qu'il y en ait un, des maires qui sont à l'écoute de vos discours? Et quel est le nombre d'administrés moyens, hein, encore une fois à la louche, de ces maires? Est-ce que c'est des petites mairies de quelques centaines? Est-ce que c'est des mairies de plusieurs milliers ou de dizaines de milliers? Ce serait intéressant à avoir cette précision.
Bon, la réponse est très simple. Premièrement, on va distinguer ceux qui nous écoutent avec intérêt et ceux qui ont une chance de nous parrainer. Ceux qui nous écoutent avec intérêt, c'est plusieurs. Ça peut être lié au fait de mettre en place des dispositifs de démocratie directe et non participative dans la ville. Mais ceux qui ont une chance de nous parrainer ne sont pas ceux-là. Pourquoi ? Parce que les maires des grandes villes sont liés à un parti politique, appartiennent eux-mêmes à un parti politique, et donc ils parrainent la personne de ce parti politique qui va être candidat. Donc, il n'y a aucune chance qu'ils nous donnent le parrainage. En revanche, dans les petites communes, là, il y a des maires qui n'appartiennent à aucun parti. Comme vous le savez, au-dessous de 1000 habitants, c'est pas une bonne affaire d'être maire. Et donc, c'est des personnes qui font ça presque bénévolement, qui ne s'intéressent pas à la politique politicienne, et c'est ceux-là qui sont le plus intéressés pour nous. Plutôt jeunes, ceux qui sont un peu plus intéressés que en général. Et donc, des personnes qui, par définition, là aussi, ils font pas trop démocratie directe pour une raison aussi très simple, c'est que au-dessous de 1000 habitants, la démocratie directe peut se faire de façon totalement informelle. C'est-à-dire, tu déposes une demande à la mairie, il peut y avoir un débat public, il n'y a pas besoin. En fait, la démocratie a besoin de procédures très formelles quand on est nombreux. Moins on est nombreux, moins on a besoin de procédures formelles. Donc, c'est pour ça que c'est assez décorrélé le fait, leur pratique et leur soutien.
Merci Raoul. D'autres questions, Stéphane ?
Non, pas du tout. Je te remercie. J'espère de prendre le relais à nouveau. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Écoutez, donc du coup, Pascal, puis on a Robert qui nous a rejoint également. Vas-y, Stéphane.
Merci.
Pascal.
Merci. Le Frexit, on n'a pas le choix. On n'aura pas le choix si on veut pouvoir nous libérer, puisque l'Union européenne, pour nous, peuple, comme pour notre nation, la France, c'est une prison politique. Les décisions sont prises loin, notamment les décisions sur la politique monétaire qui sont prises à Francfort, et nous subissons tout ça. Donc, si on veut pouvoir cette prison, le Frexit, c'est incontournable. Mais sortir de cette prison politique ne nous libère pas pour autant. Nous, le peuple, on restera toujours, comme depuis 235 ans, dans la prison politique nationale, à ne pouvoir décider de rien du tout autrement que par la voie des représentants que nous nommons pour exercer la souveraineté. Et tout à l'heure, Raoul, tu as parlé de l'article 3 de la Constitution en disant que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par le référendum. Le référendum n'est pas exercer la souveraineté. Et ça, on l'a vu en 2005, on l'a tous vu, puisqu'on a dit non au projet de Constitution européenne. Et ça n'a pas empêché nos représentants de se réunir en congrès pour réviser la Constitution et ensuite adopter le traité de Lisbonne. Et donc, je voudrais vous donner une petite métaphore, parce qu'il y a une petite subtilité à comprendre quand on parle de la souveraineté. Déjà, l'article 3 ne dit pas que le peuple est souverain. Il dit que la souveraineté nationale, la souveraineté de la nation, c'est-à-dire d'une entité, d'une abstraction, appartient au peuple et que cette souveraineté-là, nationale, est exercée par les représentants. Et donc, la métaphore, c'est nous sommes propriétaires d'un logement, d'un studio, d'une maison, peu importe. Nous sommes propriétaires, comme la souveraineté nationale dit que l'article 3 dit que la souveraineté nationale nous appartient, donc on est propriétaire de ce logement et on décide de le mettre en location. Donc, pour arrondir nos fins de mois, on va le louer à quelqu'un qui va y résider. Et à partir du moment où cette personne va résider dans notre maison, et là, donc, on peut comparer avec nos représentants donc, que nous nommons pour exercer la souveraineté, eh bien, nous perdons la jouissance de notre bien. Ça va être le locataire qui aura la pleine jouissance à partir du moment où il paye son loyer. Et le loyer qu'il paye, en fait, c'est, pour reprendre la métaphore, c'est nous, quand nous glissons un bulletin dans l'urne, en fait, nous donnons la légitimité à nos représentants, à ces gens, aux élus, donc aux personnes qu'on nomme, pour nous représenter. Et ça, c'est dit, c'est pas dit comme ça, mais c'est noté très clairement dans la loi constitutionnelle qui a précédé donc, l'adoption de la Constitution ensuite, la loi du 3 juin 58 qui dit, en son petit 1, « Seul le suffrage universel est la source du pouvoir. C'est du suffrage universel ou des instances élues par lui que dérivent le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. » Alors, tous les citoyens, pas tout le peuple, hein, parce qu'il n'y a que, les électeurs qui peuvent glisser un bulletin dans l'urne, pas les mineurs, pas les personnes qui ne disposent pas de ce droit. Les citoyens, quand nous mettons en fait un bulletin dans l'urne, quand nous sommes appelés, en fait, nous nous tirons une balle dans le pied parce que rien ne nous oblige à le faire. Le fondement doctrinal de la souveraineté nationale, qui remonte à 1789, dit que les citoyens qui se nomment des représentants, ce n'est pas une obligation, hein, on se nomme des représentants, à partir de ce moment-là, renoncent à pouvoir décider eux-mêmes. Voilà le piège. Je sais pas, moi, il me paraît évident, quoi. Je comprends pas comment des gens comme nous, qui sommes là, donc qui sommes intéressés par l'évolution, je comprends pas comment on peut ne pas comprendre ça. Ça me paraît vraiment.
Alors Pascal, encore une fois, on comprend ton raisonnement, que c'est à chaque space tu viens nous l'expliquer. On le comprend simplement. Il faut aussi que toi tu comprennes que pour beaucoup, si on comprend effectivement ce que tu décris. Nous avons conscience également que ce n'est pas demain la veille que les gens vont tous arrêter en masse de voter pour justement arrêter de donner le crédit à ce que tu dénonces. Donc, il faut bien essayer de trouver des palliatifs, il faut bien essayer de trouver d'autres solutions que le simple fait de se dire « Bon, allez, demain, plus personne ne va voter. » Parce que ça ne se produira pas. Et ça, je comprends ton point de vue. Mais il faut aussi que tu comprennes le point de vue de ceux qui peuvent comprendre le tien, mais qui ont décidé de trouver d'autres solutions que d'attendre le jour où plus personne n'ira voter.
Tu sais, ça s'est produit en fait en 2017 et en 2022, où il y a eu une inflation supérieure à 53%. Et là, donc il y a quelques mois, Macron qui a eu la bonne idée de dissoudre l'Assemblée nationale, cette abstention, elle est tombée à 33%. Donc, je termine, hein, j'ai entendu la cloche. Donc, en fait, avec 33% d'abstention, c'est 66% de participation, nous avons clairement signifié représentants que nous souhaitons donc être présentés, et c'est ce qu'ils feront, et c'est pourquoi moi je prédis, hein, j'ai pas de boule de cristal, mais hélas, ces deux pétitions qui viennent d'être lancées sur le site de l'Assemblée seront classées dans quelques mois, hein. Ça c'est couru d'avance. Voilà, merci.
Très bien, merci Pascal.
On va laisser une dernière question très rapide à Robert, sauf s'il n'y a pas on va laisser aussi Raoul conclure, parce que et le laisser quitter ce space, puisqu'il a déjà largement contribué à l'heure et demie qu'il nous avait demandé. Merci beaucoup, Raoul. Donc, s'il vous plaît, des questions très rapides, et on va laisser après la conclusion à notre invité Raoul, s'il vous plaît. Merci.
Oui, merci Stéphane. Moi, j'avais une question effectivement assez rapide. Est-ce que dans votre débat avec les députés, même dans vos travaux préparatoires au sein de votre parti, question démocratique, vous évoquez un sujet qui est consubstantiel à la démocratie directe, en vote en général, mais celui du mode de scrutin, parce que les modes de scrutin qu'on a usuellement en France, c'est-à-dire uninominal à deux tours, sont particulièrement médiocres dans le cadre du référendum, puisque parfois ils conduisent à obtenir un résultat qui est le moins désiré. Enfin bon, sans rentrer dans les détails, les techniciens des systèmes de vote le savent pourquoi. Donc ça me paraît un sujet particulièrement important, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un référendum, mais il faut aussi que le mode de vote permette d'obtenir le résultat qui convient, quoi. Voilà, enfin, qui soit approprié au désir des citoyens. Voilà, c'est tout.
Merci Robert. Raoul, si tu peux répondre à cette dernière question.
Oui, donc nous, alors c'est tout à fait juste, hein, que le système français à deux tours donne des résultats aberrants, et quelquefois incite même, pour pouvoir gagner, à faire des choses mauvaises pour beaucoup de gens, en fait. Donc ce n'est pas un mode de scrutin super. Après, nous on se concentre sur autre chose. Pourquoi ? Parce que en fait, il y a toute une palette de choses qu'il faudrait améliorer et sur lesquelles il y a débat. Mais il est clair que lorsque les citoyens peuvent directement contrôler la Constitution, ils peuvent directement changer le mode de scrutin. D'ailleurs, dans tous les exemples que nous avons, ça a été fait, c'est-à-dire systématiquement, ça va vers un mode de scrutin proportionnel. C'est ce que les gens préfèrent, en fait. Donc, par contre, se mettre à côté une bataille sur un mode de scrutin me paraît risqué et maladroit, parce que c'est tout de suite celle que les... En fait, les partis politiques attendent qu'on demande autre chose que ce qu'on demande pour pouvoir s'en saisir. Parce que autant changer de mode de scrutin, ça leur va, c'est pas non plus... pas à tous, mais enfin, il y a débat. Mais donner le contrôle de la Constitution aux citoyens, ça, c'est toujours la dernière chose, le dernier recours qu'il faut faire. Donc, on évite d'avoir d'autres revendications pour lesquelles ils pourraient dire, ah ben voilà, je vais vous prendre celle-là, et finalement, on peut se mettre d'accord, on peut pas tout avoir. On va à la racine du problème, on va dire. Mais cela dit, je suis totalement d'accord, et le jour où on gagne... on sera ensemble pour l'amélioration du mode de scrutin. Il y en a d'autres, d'ailleurs, peut-être même pas d'accord sur celui qui est idéal, mais en tout cas, il y en a beaucoup qui sont mieux que celui qu'on a. Juste une dernière remarque par rapport à ce qui a été dit avant, qui est faux, en fait. C'est ça qu'il faut voir, et c'est un point important par rapport à ce qu'on fait. Le référendum de 2005 n'a pas été, d'un point de vue juridique, n'a pas été ignoré. Dans les faits, oui. Mais un référendum ne peut pas être ignoré en France. Le traité qui a été voté par le Parlement est un traité très semblable à celui sur lequel on a voté, mais ce n'est pas le même. C'est-à-dire que le texte identique sur lequel on a voté, on ne peut pas revenir, le Parlement ne peut pas le faire passer tel quel. Alors, c'est tout le problème, c'est-à-dire que si on fait une loi et que le Parlement a le droit aussi de faire une loi, et nous on fait une loi et le Parlement refait une loi contraire à celle qu'on a fait, mais en changeant en virgule. Voilà, comme le traité, on change une virgule, c'est plus le même traité. Alors, il peut le faire. C'est pour ça que c'est très important ce qui s'appelle le référendum obligatoire, c'est-à-dire que on ne peut pas changer la Constitution sans le vote des gens. Parce que si on peut le faire sans le vote des gens, c'est toujours possible de rendre vain des décisions qui ont été prises directement. C'est ce qui se passe. Le fameux alinéa 3, c'est à quoi ça sert? C'est ce par quoi... le traité de Lisbonne est passé parce qu'ils ont une autre possibilité de faire passer des choses. Ça ne sera pas les mêmes, mais ça sera très semblable. Voilà, ça c'est ça que je veux dire, et ça veut dire deux choses. La première, c'est que le référendum obligatoire est très important, et la deuxième, c'est que quand on dit que les référendums, parce que Pascal te disait ça, ne sont pas contraignants en France, la preuve 2005, c'est faux en fait. Le référendum est un acte de souveraineté, comme est écrit dans l'article 3 et comme il est confirmé par le Conseil constitutionnel, par l'article 89. Quand on vote, on est sûr que ce résultat-là, ce texte-là pour lequel on a voté, il ne passera pas. On n'est pas sûr qu'un texte voisin passe. C'est ça tout le problème. Donc, on doit s'assurer de pouvoir voter tous les textes. Donc, à chaque fois qu'il nous faut un texte voisin, on devra le revoter. Donc, on votera non jusqu'à ce que le texte ne sera plus aussi voisin que ça. Voilà. Comme font les Irlandais, d'ailleurs. Hein, que quand ils votent non à l'Union européenne, au lieu de dire « Qu'est-ce que tu veux, toi, Premier ministre irlandais, pour que nous, on te donne... pour que tu adhères à ce traité, ils sont obligés de demander qu'est-ce qu'ils veulent les Irlandais pour voter oui. C'est une question différente. Donc les Irlandais ont beaucoup d'avantages dans l'Union européenne. D'ailleurs, ils en tirent beaucoup d'avantages aussi, précisément parce qu'il faut faire plaisir aux Irlandais et non pas au gouvernement irlandais. C'est ça la logique qui est derrière. Voilà. Écoute, Stéphane, merci pour cette invitation. Juste des choses sont peut-être un peu plus claires. Après, nous, de notre côté, on pourrait discuter des heures. On fait régulièrement des articles ou des lives ou des vidéos pour parler de tous ces problèmes dont on a parlé aujourd'hui. D'ailleurs, vous en trouvez, si vous voulez trouver toute la question sur l'Union européenne, on en fait plein. Et donc, voilà, n'hésitez pas, si vous voulez quelque chose d'un peu plus approfondi, de nous commander en quelque manière un raisonnement complet sur, sur un thème ou un autre.
Voilà, merci de plus nous consacrer. On va vous souhaiter la meilleure continuation possible puisqu'effectivement vous travaillez à l'émergence de l'idée de la démocratie réelle et directe, donc c'est forcément quelque chose que nous pouvons que soutenir, malgré les petites divergences qu'on peut avoir sur des points très ponctuels et précis des démarches de chacun. Voilà. Merci encore Raoul. Stéphane, je t'en prie. Et puis s'il y en a qui ont d'autres questions pour qu'on puisse prolonger un petit peu les échanges, n'hésitez pas à lever la main, sinon nous clôturons ce space pour se dire à mardi avec Didier Maistre. Stéphane.
Oui, ben un grand merci à tout le monde. Merci bien sûr à Raoul pour cette intervention. Merci pour ta transparence. Merci aussi pour cette capacité à rebondir et à accepter la critique divergence avec autant de sérénité. Mais bon, tu es visiblement un homme aguerri à cette forme de pratique et c'est très agréable d'avoir passé ces plus de 2 heures en ta compagnie. On te souhaite le meilleur. J'invite tout le monde encore une fois à rejoindre Solutions démocratiques, même si vous n'êtes pas convaincu des modalités. En tout cas, il existe un parti, jusqu'à preuve du contraire, c'est le seul. Essayons d'apporter notre petite pierre chacun à l'édifice, même si nous suivons de façon parallèle ou conjointe des chemins différents. Notre citoyenneté doit en tout cas nous forcer à nous serrer les coudes, à nous serrer la main et à essayer d'avancer ensemble dans la même direction. Donc merci encore une fois à toi pour cette intervention très instructive, pour tes réponses très complètes. Passe le bonjour donc à Clara Guerre de notre part. Et donc à une prochaine fois. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il y a des questions, levez la main de suite. Si quelqu'un veut prolonger le débat, autrement, nous allons vous souhaiter une bonne soirée. Pour une fois, nous aurons fait 2h30 et non pas 3h, ce qui sera un record. Je ne vois que personne ne lève la main, donc c'est très bien. Et ben, ce qui veut dire, Raoul, que tu auras rempli ton office et que tu auras répondu à toutes nos interrogations.
Et merci Stéphane, merci de l'accueil. Bonne soirée à tous.
Oui, pardon, excuse-moi, j'ai pas entendu ce que tu as dit.
Non, je te remerciais de l'accueil et des mots et je voulais dire bonne soirée à tout le monde.
Eh bien, écoutez, sur ces bonnes paroles, bonne nuit, veille de jour férié, donc je suppose que la nuit n'est pas finie pour beaucoup d'entre vous. On vous donne donc rendez-vous mardi prochain, 21h, avec Didier Maistre. Et dans 15 jours avec Franche Bordeaux pour parler de France constituante. Passez à tous une bonne soirée et encore merci de votre fidélité. À très vite. Bonne soirée et bonne nuit.
Merci, merci, merci. Merci. Thank you.